tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, un épisode super spécial puisqu'on va couvrir l'E3 2019. Comme toujours, ces épisodes, c'est un petit peu la fête du jeu vidéo et je pense que cette fois-ci, ça ne manquera pas de correspondre à cette description. Je suis Patrick Béja et dans l'émission, on couvre toute l'industrie du jeu vidéo. Et aujourd'hui, donc, c'est la grand messe de l'E3. Les conférences viennent de se terminer. J'ai fait des séries de nuits blanches pour tout couvrir et c'est donc épuisé que je réunis les co-animateurs du jour pour vous couvrir tout ce qui s'est passé dans toutes ces conférences et il y a de la matière. Donc très heureux d'accueillir aujourd'hui, on va faire les présentations. D'abord peut-être Oscar Lebert qui nous rejoint pour la xème fois. Oscar, grand analyste du monde du jeu vidéo en France, les chiffres n'ont aucun secret pour toi et les tendances non plus. Merci d'être avec nous.
Merci de m'accueillir, ça fait toujours plaisir.
T'as réussi à dormir quand même un petit peu?
Oui, je me suis levé il n'y a pas très longtemps, là. Je suis dans un rythme un peu décalé, quoi.
Oui, là, on enregistre à midi et demi, donc pour vous donner une idée. On reçoit également une autre qui a déjà été dans l'émission, Maïté, alias Escarina, qui nous rejoint de Kiss My Geek et le podcast Super Gamerside. Comment ça va, Escar?
Très bien, et vous?
Écoute, c'est l'E3, donc forcément très bien, c'est la seule réponse qu'il y a. Et nouvelle venue, on a également la joie de recevoir Aurélie Belzane de Asobo Studio, en charge de la communication chez Asobo. Donc forcément, pour vous, chez Asobo, c'est la fête non-stop depuis un mois, vu la réception qu'a eu A Plague Tale, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai, je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour la première fois et effectivement, ça vient clore un mois un peu fou pour l'équipe.
Bon, on est très content pour vous. Peut-être qu'on aura un autre jour l'occasion de reparler de tout ça, mais merci de nous livrer ton expertise dans cette émission. Et on va se lancer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. On va faire d'abord un petit peu une petite partie où on va parler des genre matériel / plateforme avec Stadia et Microsoft. Et puis après, on va couvrir les jeux et les conférences. Mais Stadia, je l'inclus dans l'E3 puisque Google a fait une conférence quelques jours avant la première conférence officielle ou semi-officielle de l'E3 pour dévoiler toutes les informations sur sa plateforme de streaming. Et j'avoue, pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, que j'ai été un petit peu déçu par ce qu'ils ont montré, puisque d'une part, j'ai trouvé le message hyper flou et qui a été donné lieu à beaucoup de confusion. Et d'autre part, ce qu'ils ont présenté était pour moi pas aussi, j'ai pas envie d'utiliser le mot révolutionnaire, mais pas aussi important qu'on aurait pu le penser, parce que en fait, la plateforme Stadia est simplement, entre guillemets, une plateforme de console, sauf qu'il n'y a pas la console. Mais il n'y a pas de changement du genre, vous pourrez jouer gratuitement pendant un certain temps, il n'y a pas de... vous pouvez avoir un type d'abonnement aux jeux vidéo, le fameux Netflix du jeu vidéo dont on parle depuis longtemps. La manière dont ça va marcher, c'est qu'en réalité, ce qu'ils n'ont pas bien dit, c'est que le service se lance vraiment pour tout le monde début 2020 et on peut y accéder en avance en prenant le Founders Pack qui coûte 130€ ou à peu près et qui vous permet en fait d'avoir différents morceaux de matériel qu'on peut utiliser optionnellement pour jouer à Stadia et une connexion qui va jusqu'à 4K pendant 3 mois et quelques petits trucs en plus comme ça, mais en gros c'est une sorte de bêta déguisée et c'était tellement pas clair que moi j'ai pensé qu'on avait accès à tous les jeux qui sont disponibles sur la plateforme dans cet abonnement optionnel qui vous permet en plus de ça d'avoir une connexion qui va afficher une meilleure image, on va dire. Mais bon, l'Internet m'a très vite expliqué que ce n'était pas du tout le cas et du coup, je suis redescendu à... en fait, est-ce que c'est si intéressant que ça dans le contexte où, à terme, les autres acteurs du milieu vont proposer un service à peu près équivalent avec en plus l'option de jouer sur une console en local si on le souhaite. C'est-à-dire que, a priori, Microsoft va lancer xCloud très bientôt et on aura l'option de jouer sur les consoles aussi. Et Sony va améliorer, on imagine, son service PlayStation Now pour l'amener à un niveau comparable à ceux des concurrents et on aura toujours la PlayStation 5 quand elle se lancera. Bon, ça c'est dans un an, mais il n'empêche. Donc ça, c'était un petit peu une petite déception. Là où la déception a été, je passe très vite hein, sur tous les détails, mais là où la déception s'est un petit peu expliquée, en fait, c'est quand on a compris que le service Stadia pourrait être utilisé par d'autres développeurs, d'autres éditeurs, comme plateforme de streaming pour leur propre service. Et d'ailleurs, Ubisoft a annoncé, il y a pendant sa conférence, donc quelques jours après, que son nouveau service d'abonnement Uplay Plus, qui donne accès à tous ses jeux et à tous les contenus supplémentaires des jeux, dans les jeux as a service, ça compte beaucoup parce que les contenus supplémentaires représentent une bonne partie de l'offre gaming. Et donc, ce Uplay Plus sera disponible sur PC, mais aussi sur Stadia. C'est-à-dire que Stadia sert en quelque sorte de marque blanche pour Ubisoft, et on peut imaginer pour d'autres éditeurs à terme, EA avec son service EA, EA Access Premier, et d'autres peut-être, Bethesda, d'autres, on peut l'imaginer. Et donc Google se prendra certainement une partie du gâteau dans l'opération, mais offre son service de streaming pour d'autres. Et dans ce contexte-là, je pense qu'on comprend un petit peu plus pourquoi Stadia ne propose pas eux aussi un service d'abonnement. Et en plus, cette mécanique permet, j'imagine, hein, on n'a pas toutes les précisions, mais permet à Stadia de bénéficier de l'arrivée de tous les jeux qui sont inclus dans ces services comme jeux à vendre, comme tous les autres jeux, dans cette mécanique de bah, c'est une console, mais sans console, donc vous achetez vos jeux comme si vous les achetiez sur console. On va passer sur la controverse permanente de « oui, mais c'est pas bien parce qu'il faut une connexion rapide ». Ça, on va partir du principe que c'est évident. On n'a pas besoin de console, donc c'est un plus, mais il faut une connexion rapide, donc ça ne concernera pas tout le monde. Je pense que c'est assez clair à la base. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé très rapide de tout ça. Je vais me retourner, je ne sais pas, on va commencer peut-être par Oscar. Qu'est-ce que tu as pensé de cette présentation de Stadia ?
Un peu comme toi, j'ai trouvé ça... disons qu'en fait, j'ai surtout trouvé que ce n'était pas si agressif que ça. Et que finalement, on le voit bien dans les réactions, quoi. Ça a provoqué finalement beaucoup moins de bruit que leur précédente conférence. Et y a un côté, forcément, on est dans l'E3, donc on parle d'autre chose, mais j'ai l'impression que tout le monde a oublié quasiment. Et je vais faire un parallèle directement avec le cas de Microsoft, parce que c'est ça que je trouve assez intéressant aussi, c'est que même eux, il y avait un côté, au moment où Google a fait sa première conférence pour annoncer son service et tout ça, Microsoft avait réagi en... Il y avait un mail interne de Phil Spencer à ses équipes qui disait Google fait fort, mais on va faire encore plus fort, on se prépare pour l'E3. Sous-entendu, à l'E3, on va balancer l'artillerie lourde sur leur propre service streaming. Et finalement, il a été très peu mis en avant sur cette E3. Et même maintenant, on se retrouve avec des déclarations, notamment de Spencer, mais pas que lui, qui désamorcent beaucoup la chose en insistant sur le fait que le streaming, c'est pas pour tout de suite, que... ils ont une déclaration que je trouve, une communication que je trouve très différente de celle d'il y a un an où vraiment ils insistaient en train de dire voilà, c'est le futur, on va vers là-dessus et tout ça. Et maintenant, ils sont là en train de dire bon, toujours la même chose, on va vers là-dessus, mais c'est quand même pour dans longtemps, ça va prendre du temps, pour l'instant, c'est les consoles. Et ils désamorcent beaucoup la chose et finalement, il y a un côté. Une sorte de camoufler un peu du truc, même si, comme tu dis, c'est évident que les connexions sont pas encore à niveau pour la majorité aujourd'hui et que ça va prendre longtemps. On le savait déjà, mais là, ça devient plus évident, j'ai l'impression.
Ouais, moi, je vais pas aussi loin que toi. J'ai l'impression que ça va arriver à la fin de l'année et que ça sera quand même une possibilité. Surtout que tu mentionnais le Microsoft, le xCloud va être lancé en octobre. On ne sait pas exactement quoi du xCloud. Est-ce que ça sera uniquement la sorte de in-home streaming qu'ils ont promis là, c'est-à-dire à partir de la console, une sorte de xCloud local gratuit, ou alors vraiment à partir des serveurs pour du vrai streaming. Mais il arrive en octobre et Stadia arrive en novembre. Moi, je crois que c'est le début. Après, on parle d'une affaire de quelques mois. Mais par contre, il y a clairement, j'ai l'impression, un problème de communication. Et du coup, je me retourne peut-être vers Aurélie sans te mettre forcément au feu sur cette question. Mais tu n'as pas l'impression que la communication n'était pas tout à fait claire chez Google ? Moi, j'ai un passif en partie de PR chez Blizzard. j'ai l'impression qu'il y avait des choses qu'ils voulaient mettre en avant, mais ça n'a pas été suffisamment bien, ça n'a pas été assez clair, quoi, ce qu'ils ont dit. On en est ressorti tiède, alors qu'il y avait des choses qu'ils auraient pu montrer de manière un petit peu plus attrayante.
Ah oui, c'est vrai que, enfin, moi je vais parler plutôt du point de vue des studios. Toutes ces annonces et notamment la Stadia, ça reste assez nébuleux en fait. Et puis, on ne sait pas exactement comment les différencier, si vraiment ça va être accessible facilement. Aujourd'hui, on voit bien que même quand on veut télécharger un jeu, ça prend énormément de temps dans certains endroits du globe. Et je sais pas. Enfin, ça va. J'espère que ça va pas créer un gaming à deux vitesses où il y aura des gens qui auront accès de façon super facile et puis d'autres qui seront un petit peu laissés derrière. Et c'est vrai que Google, leur annonce a pas été très très claire. J'avoue que moi j'ai encore du mal à cerner exactement tout ce que ça va permettre et au niveau des joueurs et au niveau des studios. Donc, je pense que on a encore besoin que ça se mature un petit peu. C'est le tout début, donc je pense qu'ils voulaient peut-être pas aussi dévoiler toutes leurs cartes tout de suite.
Ouais, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, effectivement. Et ce qui est terrible, c'est que ça fait deux conférences maintenant et qu'on reste un petit peu. Ah oui, non, mais attends, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Je ne l'ai pas dit, mais si on choisit de s'abonner à Stadia, c'est-à-dire en plus du fait qu'il faut acheter les jeux, on paye 10 euros par mois pour avoir une connexion 4K, enfin un streaming 4K. On a aussi des jeux tous les mois à la mode PlayStation Plus ou Xbox Live Gold. Donc il y a quand même certains avantages, mine de rien. Pour 10 euros, c'est pas. C'est pas rien du tout, mais au niveau gamer, moi je vais peut-être prendre un petit peu le contre-pied et je vais demander à Escarina ce qu'elle en pense. Au niveau gamer, plaisir de jouer, si on est par exemple abonné à Ubisoft Uplay Plus, alors aujourd'hui ce service il est à 14 euros par mois, ce qui est quand même pas bon marché. L'équivalent chez EA, il est aussi à 14 euros par mois, mais il y a aussi un abonnement à 100 euros par an, ce qui est quand même beaucoup plus abordable. On ne sait pas si ça sera le cas chez Ubisoft aussi, j'imagine que peut-être. Mais donc on peut télécharger tous les jeux sur PC bien sûr. Mais comme c'est aussi compatible Stadia, ça veut dire que automatiquement, on a si on a une, je sais pas, une manette PlayStation 4 qu'on connecte à son Apple TV au hasard. Et là, je pars du principe que parce qu'avec l'Apple TV, la nouvelle version, on aura une autre la possibilité de connecter sa manette PlayStation. Mais pareil avec n'importe quelle, enfin les apps sur télé, les apps sur machin. On a immédiatement accès à toute notre librairie de jeux Ubisoft par l'app Stadia qui ne manquera pas d'arriver sur notre télé, sur tout ça. Oui, il faut avoir une connexion fibre, mais autant il y a plein de gens qui n'en ont pas. Soyons un petit peu honnêtes deux secondes, il y a plein de gens qui l'ont aussi. Et ça veut dire qu'on peut y jouer un petit peu partout, soit sur PC si on veut jouer dans les meilleures conditions possibles, soit sur la télé si on a un jeu qui demande un petit peu moins de précision. C'est quand même un peu cool, non ?
Écoute, moi je suis très sceptique. Alors effectivement, je pense que de toute façon, on se dirige vers ça. Ça va être un nouveau modèle de consommation du jeu vidéo. On va pas y couper. Et pourquoi pas ? Après, il y a beaucoup de choses qui, pour moi aujourd'hui, sont pas concrètes et j'attends de voir comment ça va se passer. On parle de la qualité de la connexion chez toi en tant que joueur, donc effectivement la problématique de la fibre, mais il y a aussi la qualité des serveurs chez le prestataire de service. Il y a aussi qu'est-ce que ça va être le catalogue, qu'est-ce que ça va être les différentes offres, quelle va être l'éthique derrière en termes.
Excuse-moi, je t'interromps, mais là, si on parle de Uplay, dont on sait Uplay Plus, il sera accessible par Stadia. Ça veut dire que c'est une offre de streaming pour tous les jeux Ubisoft. Et par exemple, j'ai envie de me faire partie de tester For Honor, dont j'entends parler depuis longtemps, ou de tester Rainbow Six Siege, ou de tester Ghost Recon Breakpoint quand il sortira. J'ai pas besoin de le télécharger, de l'installer, de machin. Je lance Stadia, j'appuie sur un bouton et je joue tout de suite. Non, toujours pas, ça te parle pas ?
Si, ça me parle, mais si tu veux, là pour moi aujourd'hui on est dans l'ordre du discours de la séduction, donc effectivement l'offre elle est séduisante, mais dans les faits comment est-ce que ça va se passer, j'attends de voir. Moi aujourd'hui je me dis demain je le fais, je sais pas comment ça va se passer concrètement, est-ce que je vais avoir la qualité de connexion suffisante pour pouvoir effectivement jouer directement à ce jeu-là, enfin, c'est vraiment de l'ordre de l'abstrait encore sur beaucoup de points pour moi, j'attends un peu de voir, je n'irai pas me lancer à corps perdu là-dedans, je pense que je vais attendre les des premiers retours d'utilisateurs. Mais après, c'est sûr que c'est très séduisant. Ça change aussi notre façon de consommer le jeu vidéo. Plutôt que d'acheter un jeu 70 euros day one, et ben on va payer 10 ou 15 euros d'abonnement, y jouer pendant un mois, et puis après se désabonner et se réabonner éventuellement sur une autre plateforme. Ça offre des perspectives assez intéressantes.
Bon, je vois que j'arrive pas à allumer le feu dans vos cœurs, donc vous êtes tous un petit peu tièdes. Pardon, Oscar, vas-y.
Ouais, non, parce que j'aimerais revenir sur la question des abonnements, parce que je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants là-dedans. C'est que, comme tu dis, il y a, on se retrouve dans une situation un peu bizarre où visiblement on serait parti pour tous les gros éditeurs auront leur propre service d'abonnement, que ce soit via Stadia ou ils peuvent même le faire. Je prends l'exemple de l'annonce qu'on a eue récemment sur le fait que Microsoft et Sony sont mis d'accord pour que Sony puisse utiliser les infrastructures de Microsoft, ce qui est un point assez important parce que fondamentalement, en matière d'infrastructure pour le cloud, il y a trois principaux acteurs que sont Microsoft, Amazon et Google qui ont les plus grosses infrastructures au monde. Les autres sont largués. Et à partir du moment où Microsoft accepte de faire un partenariat avec Sony pour que Sony puisse utiliser les infrastructures de Microsoft, ça sous-entend que n'importe qui pourra faire pareil. Si Microsoft est d'accord pour que Sony les utilise, ils seront d'accord pour que Nintendo les utilise, pour qu'Electronic Arts les utilise, etc.
Oui, il n'est pas inenvisageable, par exemple, d'imaginer que le Uplay Plus, par exemple, arrive sur xCloud à un moment. Ça serait possible.
Exactement. Et du coup, on se retrouve dans une situation où à peu près n'importe qui pourra avoir son propre service par abonnement. Et finalement, si on doit s'abonner à plein de services d'abonnement, c'est en fin de compte, c'est pas très intéressant pour le consommateur.
Bah moi, Pardon, vas-y, finis. Je te réponds.
Pour aller au bout de ma pensée, en fait, le truc, c'est que je pense pas que ça va se passer comme ça. À mon avis, il va y avoir une évolution logique avec des bouquets d'abonnements qui resteront des offres intéressantes ou des abonnements d'ensemble. Enfin, moi, ça me paraît pas impossible que Google lance leur propre abonnement généralisé qui inclura des jeux de tous ceux qui sont trop petits pour avoir leur propre service d'abonnement, parce que Ubisoft peut se permettre à la limite d'avoir son propre service, mais Asobo par exemple peut pas se permettre.
Ouais, c'est un
gros
problème.
Voilà. Et là, pour moi, c'est là où on touche à un autre problème que je trouve très dangereux, en fait, c'est sur la répartition des bénéfices, parce que là on voit ça par exemple dans le cinéma. Pas de souci, Netflix fait son truc et gère la répartition des bénéfices et l'industrie est OK parce que ça répond à un problème du piratage qui fait que vaut mieux Netflix qu'on n'arrive plus à vendre des Blu-ray, mais on n'a pas ce problème-là dans le jeu vidéo. Et si on passe d'un seul coup d'une pratique généralisée à l'abonnement plutôt qu'à l'achat, je pense que ça peut être dangereux pour les plus petits, en particulier dans l'industrie, qui risquent de se retrouver avec beaucoup moins d'argent en final de leur...
Ouais. C'est la préoccupation qu'on a avec tous ces problèmes d'abonnement depuis un moment. Moi, je crois que ça va proposer en fait d'autres vecteurs et que un studio comme Asobo pourra aller voir Netflix, pourra aller voir Stadia ou Ubisoft même et leur dire, écoutez, combien vous nous filez pour que notre jeu, et on a un certain cachet maintenant, que notre jeu ou nos jeux soient chez vous, ou même Xbox, ou le contenu reste roi. Donc,
je suis un petit peu effrayant. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, vas-y, Aurélie. Parce que je viens de l'industrie de la musique. À la base, j'ai travaillé chez Sony Music avant d'arriver dans les jeux vidéo. Je suis arrivée dans les jeux vidéo en 2003. Et la musique, ça a été une vraie catastrophe et ça a été super mal géré. Alors, on n'a pas les mêmes leviers de négociation au niveau des jeux vidéo. Mais je ne voudrais pas que le jeu vidéo devienne un produit de consommation immédiat. Je voudrais qu'on continue à valoriser la création. C'est vrai que ça va être compliqué pour les indépendants. Je ne suis pas sûre qu'on ait autant de leviers de négociation que ça avec des très très gros comme Ubi. On est des nains à côté, même si c'est vrai que là on a réussi quelque chose de chouette et que on commence à avoir un peu de notoriété, la négociation, elle n'est pas dans les mains des studios, en tout cas des studios indépendants. Je sais que sur Bordeaux, par exemple, où nous, on est basé, il y a énormément de studios très, très talentueux. Je pense à Motion Twin, notamment, qui cartonne en ce moment. Tous ces studios-là, ça va être très compliqué pour eux de continuer à valoriser la création et à négocier avec des très, très gros. Donc, c'est vrai que c'est un peu effrayant quand même. Hein.
Je comprends la peur que ça provoque, évidemment, mais je crois que c'est aussi une réaction naturelle quand il y a des gros changements, mais que moi, je suis peut-être un petit peu trop optimiste, mais je pense qu'il y a des périodes de chamboulement et après, les choses se tassent un petit peu et un nouvel ordre s'établit qui ne met pas forcément dehors. Je veux dire, il y aura toujours de la place, tu parlais de Motion Twin, un jeu comme Dead Cells, il aura toujours de la place quelque part, peut-être pas sur tous les services, peut-être pas, mais il y aura toujours des gens qui seront intéressés. Pareil avec Plague Tale, il a fait beaucoup de bruit, il y a plein de gens qui en ont dit beaucoup de bien. Un jeu comme ça et un studio qui acquiert ce cachet, il va forcément intéresser les gens. Alors comment est-ce qu'on va passer du studio aux gens, entre guillemets, ce type d'évolution permet aussi, on peut imaginer, pour aller encore plus loin dans la vision, un truc comme, je ne sais pas, un YouTube du streaming de jeux vidéo où n'importe qui peut mettre son jeu et se fait rémunérer au temps passé. C'est l'industrie de la musique, tu en parlais, a vécu un énorme cataclysme, effectivement, mais ses revenus ont été chamboulés, mais sont pas du tout ridicules aujourd'hui. On pourrait partir sur un grand débat sur les évolutions de toutes les industries.
Mais... Ouais, mais les créateurs touchent beaucoup moins d'argent qu'avant, et surtout avant, quand on avait un album où il y avait 5 chansons géniales dessus, aujourd'hui un album ça se réduit à un single et puis le reste. C'est un peu de la soupe.
Oui, il y a du changement. Non, mais il y a du changement. Mais c'est pas que l'industrie de la musique est morte. Et je pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui la musique c'est pas bien. Tu vois, il y a quand même des musiciens, il y a Patrick... des auteurs, il y a des indés. Ça marche différemment, mais on peut pas dire que ça marche pas. Pardon, Oscar.
Mais parce que justement, c'est-à-dire c'est pareil qu'avec Netflix. Enfin, quand tu regardes Spotify sur l'industrie de la musique, c'était un peu un mal nécessaire. C'est-à-dire c'était pas idéal par rapport à la façon dont fonctionnait l'industrie avant, mais c'était nécessaire parce que l'industrie se cassait la gueule à cause du piratage. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas ce problème-là, et malgré ça, il y a des acteurs qui sont en train d'essayer de faire changer, de modifier l'usage des consommateurs et de les faire tourner vers des services d'abonnement. Et le truc, c'est que, je pense que l'industrie n'a pas besoin de ça.
C'est une question qui est... Enfin bon, je pourrais en débattre, mais je pense qu'il faut qu'on conclue. Donc finis ta pensée et je te laisserai le dernier mot.
Pour revenir sur l'idée des petits face aux gros, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de problèmes en l'état parce que fondamentalement les services d'abonnement sont déjà là sans passer par le streaming avec le Game Pass de Microsoft. Mmh. Ou d'ailleurs ce qu'a annoncé Ubi avec son truc, c'est pas que Stadia, c'est ils vont aussi le faire de la même manière que le Game Pass de Microsoft.
Ah oui,
de la même
PC,
manière
ouais.
Que Electronic Arts actuellement, c'est déjà en train d'arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème dans la mesure où, effectivement, ce que tu disais sur le contenu roi, je pense qu'aujourd'hui, on le voit avec Microsoft et ces jeux qui rajoutent dans le Game Pass, et il y a pas mal de jeux indés qui ont été annoncés, notamment à Ast3, à ce niveau-là. C'est bénéfique à ce moment-là pour les studios, justement parce que c'est pas l'usage dominant, l'abonnement. Donc Microsoft est dans une position où ils ont intérêt à avoir du contenu, donc ils ont intérêt à offrir des trucs satisfaisants pour les studios. Mais le jour où l'abonnement devient la norme et que les jeux ne se vendent plus à l'achat normal, bah là c'est Microsoft qui devient, enfin Microsoft et tous les gros acteurs qui contrôleront les abonnements, qui seront en position de force face aux studios qui pourront plus rien faire et qui seront obligés d'accepter à rabais les revenus qu'on leur fera.
Se faire racheter aussi.
Bon, se faire racheter peut-être aussi, mais à l'époque des grands abonnements au câble, on vendait quand même des DVD. Abonnement ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien d'autre ailleurs. Enfin bon, bref, on pourrait en débattre. On n'a pas assez de temps pour se lancer entièrement dans le débat et c'est super intéressant. Et vous avez raison de lever ces préoccupations-là. Moi, je dirais que je suis moins pessimiste que vous, mais je comprends vos préoccupations. Et bien justement, si on avance vers Microsoft, on va passer sur l'histoire des déodorants Microsoft, hein, qui est sorti en ce moment, qui était marrant, les déodorants Xbox. Le Game Pass, ils ont fait un énorme push sur le Game Pass, encore plus, je crois, que sur le projet Scarlett. Et donc, le projet Scarlett, c'est la prochaine console, hein, la prochaine génération. Moi, j'attendais à ce qu'ils nous expliquent le concept de Scarlett, c'est-à-dire, vous pouvez jouer sur votre console et vous pouvez jouer en streaming si vous le souhaitez. Ils n'ont pas été jusque-là, ils se sont limités à quelque chose qui était à peu près équivalent à ce qu'avait fait Mark Cerny dans son interview avec Wired il y a 2 mois de ça pour dévoiler les specs de la PlayStation 5, de la prochaine PlayStation. Et évidemment, on est à peu près dans les mêmes eaux, coprocesseur Navi, processeur Zen 2, enfin basé sur ces technologies, 120 Hz, 8K maximum, ray tracing, SSD pour des chargements plus rapides, etc. Donc on est vraiment dans la même marge, parce que c'est comme ça que la technologie évolue, donc ce n'est pas étonnant. Un petit mot sur Halo Infinite, dont on a vu une sorte de cinématique dans le moteur du jeu qui, moi, m'a paru pas du tout impressionnante. On m'aurait dit, c'est sur Xbox One X, j'aurais pas été étonné du tout. Mais bon, c'est le tout début. On aura donc le vrai lancement de la prochaine génération en 2020 pour l'E3. Ou s'il y a un E3 en 2020, on verra si tout le monde ne fait pas ses propres conférences à ce moment. Mais ce qu'ils ont vraiment poussé, c'est le Game Pass, avec l'arrivée du Game Pass pour PC, qui coûte un prix ridicule pendant la période de bêta, donc seulement 4 euros pendant la période bêta, parce qu'il y a une affaire monumentale. Il y a même des trucs pour convertir ses anciens abonnements en Game Pass Ultimate qui inclut le Xbox Live Gold et le Game Pass sur PC et le Game Pass sur console pour 14 ou 15 euros par mois. Et il y a des gens qui se sont fait des abonnements de 2 ans pour ce genre de trucs. C'est un super bon deal et ils ont vraiment poussé ça, je crois, parce qu'une fois qu'ils vous amènent dans leur système, s'il y a aussi le système de streaming, bah en fait, le fait qu'il y ait la prochaine console, vous êtes naturellement amené à cette prochaine génération si vous êtes dans l'univers du Game Pass. Je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et surtout, ils ont poussé cette génération encore beaucoup plus que je l'aurais pensé. La leçon que je retiens de chez Microsoft, c'est la prochaine génération, elle arrive, mais ça sera l'année prochaine. On ne lance pas les hostilités maintenant, ce qui est peut-être une occasion manquée vu qu'il n'y avait pas Sony en face. Mais c'est sans doute, je ne sais pas, soit qu'ils n'étaient pas prêts, soit qu'ils ne voulaient pas nous dire « on y va et maintenant, en fait, non, attendez encore un an et demi parce que ça sort qu'à Noël 2020 », alors que là, le Game Pass, c'est tout de suite, quoi. Des impressions. Et Scarina, je te redonne la parole. Tu n'as pas beaucoup parlé ces dernières minutes. Game Pass, tu émets des réserves sur les systèmes d'abonnement, mais le Game Pass PC, quand même, tu l'as pris, non?
Alors, je l'avais pris il y a quelques mois pour Sea of Thieves. Là, moi, j'ai revendu ma Xbox, donc du coup, je me sens un petit peu moins concernée par l'offre complète.
Mais t'as pas de PC.
Et là, j'avais souscrit au Game Pass il y a quelques mois pour tester, pour jouer un petit peu à Sea of Thieves. Donc tu vois, je l'avais.
Game Pass, en fait, le Game Pass pour console, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Il incluait les jeux Microsoft qui sont aussi PC. Là, on est dans une offre plus vaste qui va avoir un catalogue plus vaste que juste les jeux Microsoft, mais qui inclut évidemment principalement les jeux Microsoft, ouais.
Écoute, je pense que je l'utiliserai de la même façon que je l'avais fait pour Sea of Thieves, c'est-à-dire si j'ai un jeu qui me fait envie et que j'ai pas envie de payer plein pot en me disant que j'y jouerai qu'un mois ou deux, bah je souscrirai à ce moment-là pour y jouer un mois ou deux. Mais là, je suis encore dans mes vieilles habitudes de gameuse. Quand un jeu me plaît, j'ai envie de l'acheter. J'ai pas forcément envie de commencer à m'engager dans un abonnement. Je trouve que c'est pas la même démarche. Donc non, là pour l'instant, encore une fois, je suis très sceptique. J'attends.
D'accord.
Bon,
on va pas refaire le même. On va pas refaire le. Moi, ça me fait penser aux gens qui s'abonnaient à Netflix pendant un mois pour regarder House of Cards il y a quelques années. et qui au final, bah, y a tellement de choses sur Netflix qu'on reste abonné et c'est genre on va pas s'abonner, se désabonner toutes les deux années, tous les deux mois. Je pense que les mécaniques qu'ils vont vouloir installer seront les mêmes. Si vous avez quelque chose à ajouter, Aurélie ou Oscar, c'est le moment. Même si on a beaucoup parlé du streaming et que les abonnements en fait se confondent avec ça, parce que souvent on comprend les deux technologies ou les deux offres de la même manière. Mais allez-y, c'est le moment.
Non, moi je trouve que ton parallèle avec Netflix, il est excellent. C'est vrai que on a tous choisi de s'abonner un mois pour tester quand c'était gratos un mois. Et puis en fait, ben on l'a tous gardé. Mais peut-être, enfin, moi j'attends de voir quel effet pervers ça va créer. Il y a un moment, on va faire le ménage parce qu'on a trop d'abonnements et il faudra bien choisir à multiplier les 10 euros par mois. Il y a un moment où on va plus pouvoir se les offrir. Donc, il faudra voir lequel va gagner entre tous les abonnements de jeux vidéo et puis la musique, parce qu'on a tous aussi un Spotify ou un abonnement de musique quelque part. Et voilà, j'attends de savoir qui va gagner, quoi.
C'est complètement vrai et tu as tout à fait raison. Mais moi, je trouve ça absolument formidable. Pour 10 euros par mois, je peux avoir accès à toute la musique du monde. Alors, bon, pour la musique, on n'a qu'un abonnement. Mais pour les jeux, ce que je dis à chaque fois quand ces sujets reviennent, c'est qu'un core gamer, un gamer qui se définit comme gamer, va acheter, je pense, à peu près en moyenne un jeu par mois. On va dire un jeu plein pot, au minimum, ouais. Plus ou moins. Un jeu, c'est quand même 60 euros. Pour 60 euros, ça en fait des abonnements. Ça fait, on va dire, entre 4 et 5... On va dire 4 abonnements à 15 euros par mois et aucun... Enfin, il y en a beaucoup qui sont à moins de 15 euros par mois. Donc... 4 abonnements, ça fait une quantité de jeux et si on fait une rotation entre les abonnements qui nous intéressent tel mois ou tel mois, ça fait énormément de jeux. Je pense qu'on ne peut même pas faire tout ce qui est proposé par ces sommes-là. Donc, au niveau financier, je sais que l'argument revient souvent. Je ne suis pas convaincu qu'il soit aussi important que les gens le pensent. Mais bon, encore une fois, c'est très... très complexe et les choses sont en train de se mettre en place. Je suis sûr qu'il y aura des morts sur la route, quoi. C'est comme toutes ces industries qui sont en transformation et qui se lancent même. Au début, il y a plein d'acteurs et puis petit à petit, les plus forts restent.
L'offre est déjà hyper éclatée, là, donc il va falloir avoir un petit peu de temps. Mm-hmm.
Vas-y Aurélie, tu disais en plus.
Je trouve, Escarina, t'as raison, c'est tellement éclaté aussi, en fait, on sait plus trop où donner de la tête. Et puis, c'est sûr qu'on met 70 euros dans un jeu, mais moi, je le vois par exemple sur A Plague Tale, il y a plein de gens qui nous disent, on est super contents d'avoir mis les 49 euros sur votre jeu, parce qu'il y a des vrais créateurs derrière et on a envie de les faire vivre. Aussi. Donc, je regarde du point de vue du joueur, je trouve ça génial. Du point de vue des créateurs, c'est toujours un petit peu effrayant. Je suis curieuse de voir comment ça va évoluer.
Moi, vas-y, Oscar.
Pour donner quand même un aspect positif possible au truc de genre-là, je pense que c'est une. Ça peut être un truc pas mal pour les jeux-services, dans le sens où en fait le modèle ultime du jeu-service aujourd'hui, c'est le free-to-play, donc le jeu gratuit, mais où les développeurs, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, donc ils vont mettre des microtransactions, et c'est un truc que je trouve très malsain, ce modèle-là. Mais si ça peut permettre à des... Enfin, ça peut être un bon moyen de financement pour des jeux-services, justement, des jeux-services qui ne proposeraient pas, du coup, de microtransactions, mais qui se reposeraient sur l'abonnement. C'est un peu comme, si tu veux, par exemple, Nintendo, ils ont comme principal jeu-service chez eux, ils ont Splatoon, ils n'ont jamais proposé une microtransaction, ils ont juste proposé un DLC, mais qui était solo. Et je pense que s'ils peuvent se permettre ça, c'est notamment parce que pour jouer à Splatoon, tu dois payer le jeu en ligne sur la Switch.
C'est un jeu du constructeur, donc c'est un petit peu moins...
Oui, c'est vrai, c'est un peu un cas particulier, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, justement, parce que c'est un jeu du constructeur, le financement du développement qui continue sur Splatoon avec les mises à jour et tout, ça passe aussi par l'abonnement en ligne de la Switch. Donc, je pense que ça peut être une manière plus saine de financer les jeux-services. Mais pour les jeux solo, effectivement, je pense que ça peut avoir des dérives rapides, quoi.
Moi, je dirais en conclusion de ce sujet que on est dans une industrie qui a grandi de manière exponentielle ces dernières 10, 15, 20 ans. Et on n'a jamais eu autant de AAA qui coûtent des centaines de millions à produire. On n'a jamais eu de société aussi énorme. Et pourtant, on n'a aussi jamais eu autant d'indépendants et de jeux indépendants avec des vraies visions de créateurs et des petits trucs qui n'auraient jamais pu être créés ailleurs. Et ça, toute l'industrie grossit et je crois que ça bénéficie à tout le monde. Alors effectivement, il y a des changements, il y a des choses qui sont difficiles, qui ont toujours été difficiles et qui le restent. Mais j'ai pas l'impression que les changements...
Mais justement, quand on a une industrie aussi grosse et aussi diversifiée et qui globalement se porte bien, même si évidemment il y a des problèmes ici ou là, justement les changements peuvent être dangereux, tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais si on part de ce principe, on ne change jamais rien nulle part aussi. Donc,
effectivement, c'est vrai.
Bon, parlons de jeux. On a fait une demi-heure sur l'industrie, c'était très important et nécessaire, mais parlons un petit peu de jeux en commençant par Microsoft. Alors, ce que je vais faire pour ces différentes conférences, je vais faire un petit résumé rapide ou peut-être même pas, et puis vous demander ce que vous avez retenu. Mais rapidement, chez Microsoft, on a eu plein de jeux présentés. Ori and the Will of the Wisps qui m'a marqué, Bleeding Edge de chez Ninja Theory, le jeu de combat mêlé un petit peu à la Overwatch avec des champions, mais combat mêlé qui est intéressant. Double Fine qui a été racheté par Microsoft dans un événement un petit peu étrange de la fatalité pour Tim Schafer qui a présenté Psychonauts 2, Cyberpunk 2070 bien sûr, 2077. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'ils avaient présenté le Elite Controller deuxième série qui continue à plaire aux gens qui aiment les manettes très très chères. Flight Simulator, Forza Horizon 4 avec une extension Lego qui était marrante, Phantasy Star Online 2 qui arrive en Occident en 2020, Elden Ring, le jeu dont on avait entendu des rumeurs de From Software, et George R. R. Martin qui n'a pas de date et pas de gameplay, juste un trailer qui était assez intriguant comme toujours chez From. Plein d'autres jeux. Du coup, Escarina, est-ce qu'il y a un jeu en particulier, si tu dois en choisir qu'un ou une chose, hein, quelque chose, qu'est-ce que tu retiendrais de cette conférence Microsoft?
C'est dur, un seul. Bon, si je devais en retenir un seul, forcément, je retiendrai Cyberpunk parce que c'est un des jeux que j'attends le plus. Et puis rien que pour l'apparition de Keanu Reeves à la fin qui a fait se soulever les foules, je pense que ça restera dans les annales pendant un moment. Donc je garderai celui-là.
Je crois que l'arrivée de Keanu Reeves dans le trailer qu'ils avaient gardé secrète et puis ensuite sur scène, je pense que c'est le moment le plus E3 de l'histoire de l'E3. C'est tout ce qu'on aime et qui est en même temps problématique avec l'E3. Il n'y a aucune substance, c'est que de la forme, mais en même temps, c'est tellement bon, c'est tellement joyeux de voir un truc comme ça. En plus, Keanu Reeves qui connaît un sursaut de popularité avec John Wick et qui en plus est un mec vraiment cool de tout ce qu'on entend. C'est une star d'Hollywood qui n'a pas la grosse tête, qui est sympa, qui donne de l'argent à tout le monde, etc. Et puis, il vient sur scène et il dit... You're breathtaking. Quand on lui dit you're breathtaking, c'est un moment inoubliable. Pour moi, c'est le meilleur de l'E3, c'est ça. Bon, si on avait pu avoir un petit peu plus de gameplay, ça aurait été cool, mais visiblement les gens qui y ont joué ont eu une heure de jeu, disent que le jeu est très cool. Donc c'est vraiment, il y a pas de côté négatif à tout ça, je trouve. Cyberpunk 2077,
ouais. ça sert à rien qu'il ne rêve dans Cyberpunk, mais on est tous hyper contents de le voir, donc voilà.
Je pense qu'on est d'accord. Si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y, mais je vous donne ensuite la parole. Du coup, allez, Oscar, qu'est-ce que tu retiens de cette conférence Microsoft ?
Écoute, moi, si je devais citer juste un jeu, ce serait 12 minutes.
Ouais.
Le jeu indé qui propose, enfin, on n'a pas vu grand-chose, ouais, mais qui visiblement propose une boucle de 12 minutes. C'est-à-dire en gros le concept de Majora's Mask que j'apprécie particulièrement mais appliqué avec un thriller, je suis très très curieux et j'ai hâte d'en voir plus.
Et en plus, c'était une forme très particulière avec cette vue de dessus et le dialogue, il y a quoi, peut-être une minute de dialogue qui m'a complètement happé immédiatement. Graphiquement, c'est rien de spécial, mais le jeu d'acteur est tellement bon et l'écriture est tellement bonne avec ce personnage qui dit des choses qui vont se passer dans quelques minutes et qui prévient la personne d'avant et la personne qui est devant elle qui panique parce que l'autre est en train de lui dire des choses choses qui étaient censées être secrètes, mais il les a vues et ça instaure une ambiance immédiatement. Moi, c'est l'un des trucs que j'ai retenu aussi. C'était vraiment fort.
Ouais, et puis comme tu dis, graphiquement, c'est pas exceptionnel, mais la mise en scène semble être vraiment au rendez-vous. Donc, c'est vraiment un jeu que je surveille. Et j'ajoute juste quand même, c'est pourtant, enfin, tu t'avais évoqué tout à l'heure, Halo. Le fait qu'il y avait un côté un peu décevant parce que graphiquement ça faisait pas trop next-gen. Je pense que de toute façon, à partir du moment où on ne montre pas de gameplay, c'est pas là que ça va impressionner.
Il y a la moto chez Aurélie, c'est pas grave, continue.
Désolé, il y a des travaux à côté de chez moi.
Pas de soucis. C'est grave. Tu peux te muter comme tu le fais quand tu parles pas, Aurélie.
Mais même si je suis pas du tout un fan de Halo, je trouvais que.
Ça fait un petit frisson.
Enfin, la musique est pour beaucoup, parce qu'il faut reconnaître que je trouve la musique de Halo vraiment très bonne. Mais surtout, ça m'a marqué parce que le précédent Halo 5, à l'époque, quand il l'avait dévoilé pour la première fois avec du multijoueur, et je trouve qu'ils avaient totalement foiré l'annonce et ce côté, le côté épique de Halo, et que là, ils ont beaucoup mieux réussi cette première présentation, même si c'est qu'une cinématique, et que finalement, enfin, malgré la déception de pas avoir de gameplay, ils ont assez bien réussi leur coup, je trouve.
D'accord. Bon, bah, tu fais le ying de mon yang qui a trouvé que ça tombait à plat, mais c'est bien. Comme ça, il y aura des fans de Halo qui seront contents.
En fait, non, mais je suis d'accord avec toi, ça tombe à plat pour la console, pour faire la promotion de la console, mais pour faire la promotion du nouveau Halo, je trouve que ça marche.
Ouais. Ok. Aurélie, tu semblais dire que 12 minutes t'a plu aussi. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a marqué? Allô?
Oui, je ne t'entendais plus.
Ah, voilà. Pardon, oui, vas-y. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a marqué dans la conf Microsoft?
Je suis tout à fait d'accord avec vous tous. C'est vraiment les jeux qui ont retenu mon attention. Une petite mention spéciale pour Ori, parce que vraiment, c'est un jeu qui était extraordinaire et j'ai l'impression que ça va évoluer. Donc, je suis assez curieuse de voir vers où. Voilà, c'est vrai que 12 minutes par c'est Nomada, c'est ça qui fait le jeu. Bah, ça me rend assez curieuse aussi parce que c'est très différent de ce qu'ils ont fait avec Gris. Donc, justement, l'écriture, Gris, il n'y avait pas de dialogue. Donc, voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et puis, le jeu de Martin, Game of Thrones, parce que je suis une grande fan de ça. Donc, c'était forcément vraiment les annonces qui m'ont marqué.
Moi, j'avoue que Ori m'a complètement laissé sur le cul. On l'avait déjà vu avant, mais j'ai l'impression que c'est le plus beau jeu que j'ai jamais vu. Il est incroyable.
Visuellement, c'est fou.
C'est complètement fou. Et je n'avais pas joué au premier, donc je pense que le 11 février 2020, je serai abonné au Xbox Game Pass et je jouerai à Ori. Entre guillemets, gratuitement. Bon, Bethesda et la conférence suivante. Bon, je ne les fais pas forcément dans l'ordre, mais Bethesda, il y a eu à peu près une demi-heure passée à dire « On est désolé pour Fallout 76, on va mettre des persos NPC humains, désolé, Elder Scrolls, Blade. Bon, ce n'était pas super, mais on va l'améliorer. En plus, il arrive sur Switch avec du cross-save, machin. Donc, on vous adore, désolé. » Et après, ils ont enchaîné sur d'autres choses. Tu es plein de nazis dans Wolfenstein Youngblood et la version VR. Youngblood qui arrive le 26 juillet d'ailleurs. Doom Eternal qui arrive le 22 novembre, dont cette saison de Noël avec un truc assez... Je l'ai trouvé assez excitant alors que je pensais que ça serait juste la même chose. C'est juste la même chose, mais suffisamment différent pour que ça soit intéressant. Et puis peut-être deux jeux à retenir, il y en a d'autres, mais Ghostwire Tokyo, le nouveau de Shinji Mikami, présenté par l'incroyable Ikumi Nakamura qui a séduit, qui est rentré dans les cœurs de tout l'Internet. Et puis Deathloop de Arcane Lyon, qui est une sorte de combat entre deux assassins qui se répètent, qui doivent se tuer, mais avec les designs de niveau, on a l'impression, hein, c'est ce qu'ils disent, si bien conçu de Arcane, qu'on peut utiliser comme on veut. Bon, pas une conférence incroyable, mais des jeux quand même intrigants. Donc je refais le tour du coup. Est-ce qu'il y a un truc que tu as retenu?
Alors effectivement, moi je resterai sur le jeu d'Arcane Deathloop. Enfin voilà, c'est un jeu d'Arcane, donc forcément, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner sur cette nouvelle licence et le le trailer est propre, enfin comme ils savent très bien le faire à leur habitude. Donc j'attends de voir, mais je pense qu'on va pas être déçus.
C'est, ouais, c'est celui, peut-être celui qui m'a marqué aussi. C'est intriguant, cette idée. Et je crois que c'est du PVP, peut-être. C'est très différent si c'est du solo ou du 1 contre 1. Et je crois que l'idée de 1 contre 1 est beaucoup plus intrigante. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi, je veux du solo », mais on a déjà eu ce type de proposition, je crois, ou peut-être que les deux sont possibles, mais je crois que ça serait intriguant de voir cette sorte de 1 contre 1 dans ces environnements. Et puis, il faut choisir si on est en stealth, si on y va à fond. Puis, il y a des gardes avec lesquels il faut dealer avant d'arriver à l'autre assassin. Enfin bref, il y a plein d'idées qui pourraient être intéressantes, quoi. Oscar, quel jeu tu retiens?
Pareil, moi, le jeu d'Arkane et le jeu de Mikami, c'est les deux trucs. Enfin, j'ai trouvé dans l'ensemble la conférence très chiante. Et c'est les deux trucs qui m'ont vraiment qui ont vraiment provoqué de l'intérêt chez moi, et en même temps c'est très dommage parce que pas de gameplay alors que c'est des trucs nouveaux, donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc voilà, comme tu viens de dire, on a plein de questions à se poser et on n'en a pas vu assez, donc c'est un peu frustrant, mais ouais, c'est les deux trucs que je retiens de cette conférence.
Et on va le dire, parce qu'il faut le dire, c'est quand même plus facile de séduire les gens quand on montre pas du tout de gameplay et qu'on fait que de la promesse avec de la cinématique.
Je suis pas d'accord.
T'es pas d'accord?
Ça dépend des jeux.
D'accord.
Ça dépend des jeux. Tu vois, tout à l'heure, je sortais l'exemple de Halo, parce que Halo, on sait ce que ça va être, le gameplay, quoi. Donc, c'est pas très grave s'il y a pas de gameplay. Là, vu que c'est des trucs nouveaux, la cinématique, elle envoie bien, mais bon, derrière, on sait pas trop à quoi s'attendre. Alors moi, ces jeux m'intéressent grâce au profil de leurs développeurs.
Des créateurs, oui, c'est clair.
C'est surtout là-dessus que je me repose. Mais du coup, je suis impatient d'en voir plus. Mais j'aurais bien aimé en voir plus de la conférence, quoi.
C'est vrai que Deathloop, on a au moins une idée du concept. Ghostwire Tokyo, rien du tout. Alors là,
trailer est juste ultra cool, quoi. Mais
j'étais mais terriblement frustré pendant la conférence, quoi.
Aurélie, qu'est-ce que tu retiens?
Ouais, enfin, globalement, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que moi, j'ai adoré la présentation de Ikumi, qui était géniale. Je trouve qu'on devrait faire plus ça. Hein. On devrait moins se prendre au sérieux sur les scènes de l'E3. Ça fait du bien. C'était rafraîchissant. Du coup, ça m'a bien préparé à son petit trailer derrière. Et moi, j'ai complètement plongé dedans, même s'il n'y avait pas de gameplay. Je pense aussi que quand on révèle un jeu, on a envie qu'il soit vraiment au top. Et du coup, parfois, quand on montre du gameplay qui alterne avec de la CGI, forcément, ça crée des transitions qu'on ne veut pas forcément dans les trailers. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils privilégient de la CGI. Mais moi, j'étais à fond. Hein.
Alors, je n'ai pas expliqué de quoi il s'agissait dans Ghostwire Tokyo, mais c'est en gros dans Tokyo, comme son nom l'indique. Il y a des gens qui vivent leur vie, c'est un petit peu sombre quand même et un peu déprimant, mais au bout d'un moment, ils commencent à disparaître et on ne voit plus que les vêtements qui du coup tombent au sol. Et donc, c'est tout de suite hyper... ça provoque quelque chose, c'est bizarre et intriguant. Et après, il y a des sortes de d'humanoïdes, évidemment, qui sont un petit peu des monstres et on imagine qu'il va falloir les tous tuer, comme généralement dans ce genre de jeu, mais voilà, l'esthétique était intrigante. Je dirais un petit mot quand même pour Doom Eternal, qui pour moi, je suis curieux qu'il ne vous ait pas du tout parlé, c'est peut-être pas votre genre de jeu, mais moi, il m'a paru vraiment, vraiment convaincant. Peut-être encore plus que Wolfenstein Youngblood, qui lui aussi, on a tous envie, comme il le disait dans la présentation, de tuer des nazis, donc poignarder des nazis, shooter des nazis, étrangler des nazis, enfin vraiment, ça c'est toujours le plaisir. Mais Youngblood a l'air, même s'il y a cet aspect coop, a l'air d'être quand même plus de Wolfenstein qu'on a déjà eu, alors que Doom Eternal, qui devrait être juste plus de Doom de 2016, qui était génial, a l'air de faire plus de choses différentes. Je sais pas, moi j'ai eu l'impression que ça fonctionne plus, puis il y a ce mode battle mode en deux démons contre un Doom Guy qui va être présenté à un moment, pendant la QuakeCon, que j'ai trouvé intéressant aussi. Moi, Doom Eternal, je l'attends pas mal quand même. Et puis un petit mot rapide sur la technologie Orion, qui veut dire que Bethesda, à travers id, qui est un spécialiste des moteurs de jeu, se lance aussi dans le streaming, mais par le software. C'est, on va dire, une sorte de middleware qui permet aux développeurs d'optimiser leur moteur de rendu et de streaming par le software pour que ça fonctionne mieux et que ça aille plus vite. Donc ça touche même jusqu'à Bethesda, même s'ils ne sont pas du tout impliqués dans l'infrastructure. Parlons rapidement de la conférence EA, et quand on dit de la conférence EA, c'est juste des séries de vidéos. Ils avaient dit ça sera pas grand chose, donc c'est pas vraiment décevant, mais c'était pas un énorme truc de la part d'EA. Ils ont pas mentionné Anthem, évidemment, et il y avait donc ils ont parlé des Sims et de tous leurs jeux de sport, FIFA machin, etc. Le truc que tout le monde attendait, c'était Jedi Fallen Order avec du gameplay, là où on n'en avait pas eu à la conférence précédente. Les avis sont très partagés. Moi, j'ai eu l'impression que c'était quand même pas hyper excitant. J'ai eu l'impression d'avoir un jeu d'il y a 10 ans, un mélange entre Uncharted et, je sais pas, des arènes où on va aller taper des gens et voilà. Mais bon, le gameplay pourrait être beaucoup mieux. J'ai beaucoup de respect pour Respawn, qui font des jeux d'excellente qualité. Donc, peut-être que quand on est dedans, c'est un bon truc. Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un mélange entre une sorte de Metroidvania et un Dark Souls-like pour les combats en mêlée, ce qui, évidemment, serait intéressant. Des impressions sur ce gameplay? Est-ce que vous êtes un petit peu plus chaud que moi, peut-être? Qui veut y aller? Vous pouvez y aller, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus.
Je suis encore moins chaud que toi, moi, personnellement. J'ai été très, très refroidi par la séquence de gameplay qu'ils ont montré à leur espèce de variante de conférence. Je trouve qu'on est très loin du gameplay de Dark Souls. Pour moi, le vrai problème, c'est les combats, quoi. J'ai l'impression de retrouver une simple amélioration du système de combat de Force Unleashed, qui était sorti il y a un bout de temps. Et qui n'était pas génial. Le chien est d'accord.
Il y en a un qui n'est pas d'accord avec toi. Hein.
Je crois que j'étais en train de chercher qui allait défendre un petit peu Jedi Fallen Order, et c'est le chien d'Aurélie. Donc il y en a un au moins.
Ah oui, je suis désolée, je suis de chez moi.
Il
n'y
a pas de problème, Aurélie, c'est bien, ça donne de la vie au podcast, c'est très très bien. Est-ce que toi, ça t'a plu Jedi Fallen Order, ou t'es aussi un petit peu tiède comme nous?
Non, je suis restée un petit peu bloquée sur le trailer. C'est pas trop mon truc, quoi. Pourtant, Star Wars, on est tous hyper nostalgiques. On aimerait tous ressentir le petit frisson qu'on ressent quand on voit les films des années 70-80. Mais bon, voilà.
Est-ce qu'Arina, tu nous sauves, ou tu sauves Star Wars pour nous, ou pas du tout?
Ah, pas mieux, c'est très compliqué. Star Wars, on est forcément très exigeant. En plus de ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu Star Wars. Le dernier sur lequel on avait un espoir a été sauvagement annulé. Donc forcément, moi, dès les premières minutes du trailer, donc pas le gameplay, mais vraiment le trailer en CGI, j'étais déjà déçue. Donc forcément...
Et ça n'a pas amélioré les choses avec le gameplay.
Heureusement, je pense déjà qu'on ne va pas... On sait déjà que ça ne va pas nous surprendre dans le bon sens, quoi.
J'ai l'impression d'avoir entendu que les targets marketing de EA étaient un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre pour une licence de ce type. Maintenant, du coup, ça expliquerait peut-être un peu... Enfin bon, bref, on est... Pourtant, Respawn, quoi. Mais ils ont peut-être trop de projets sur le feu en même temps.
Peut-être surpris dans le bon sens, hein, mais bon.
Oui, espérons. Disons que comme toutes ces choses-là, c'est pas des avis définitifs. Et il y a des gens qui étaient excités à l'idée de jouer dans un univers Star Wars, et qu'il y avait des environnements qui étaient séduisants, etc. Les avis peuvent pas être définitifs sur 15 minutes de gameplay, c'est évident, quoi. Avant le 3, il y a eu aussi l'annonce de la date de Death Stranding, qui, contrairement à ce que j'avais pronostiqué, j'y aurais mis ma main à couper, c'était pas avant 2021. Eh ben non, c'est 2019, le 8 novembre, Death Stranding arrive. Alors moi, je suis encore curieux de voir si ça sera un jeu complet ou juste 5 heures, mais bon, peut-être que Kojima, il suffisait d'avoir Sony au-dessus qui lui dise: écoute, désolé gars, faut que tu sortes ton jeu, sinon ça ira pas. Et donc il le sort. Modern Warfare qui arrive, en fait une réimagination de ce qu'était Call of Duty Modern Warfare, qui est étonnamment populaire auprès des gens qui aimaient bien Modern Warfare à l'époque. Pourquoi pas? Il y a quelques autres jeux sur lesquels on va passer, mais sur ces deux jeux, un truc à dire, quelqu'un?
Moi, je veux bien dire que j'ai trouvé le trailer de Kojima génial. J'ai rien compris, mais c'est top. C'est le jeu auquel j'ai envie de jouer à la fin de l'année, quoi.
J'avoue que je ne suis pas du tout client de Kojima, comme je le dis souvent et comme on me le reproche souvent aussi. Mais à chaque fois que je vois un petit peu plus de Death Stranding, je suis un petit peu plus intrigué et j'ai un petit peu plus envie de voir ce que c'est. Donc, bien joué, Kojima. Bon, repassons aux conférences. Devolver, juste en un petit mot rapide, généralement je déteste Devolver, je trouve qu'ils en font trop, que c'est artificiel et que c'est facile de se moquer, et j'y suis allé à reculons, mais vraiment j'avais pas envie de la regarder, et à ma plus grande surprise, comme quoi je suis ouvert, hein, j'ai vraiment aimé cette petite vidéo. J'ai trouvé que le pastiche qu'ils faisaient, alors avant ils faisaient des pastiches des conférences de presse, là ils ont fait un pastiche des directs, vraiment très directement ciblé sur Nintendo, et je l'ai trouvé hyper bien foutu, et ça m'a fait rire alors que je pensais pas. Puis accessoirement il y avait des jeux sympas, en particulier on retient peut-être Carrion, qu'on avait déjà vu je crois, mais qui est ce jeu de reverse horror où on joue le monstre qui s'est échappé, avec un graphisme pixelisé super bien foutu. Voilà, c'est ce que je retiens. Je sais pas s'il y a forcément grand chose de plus à dire sur ça, des choses que vous vouliez dire sur Devolver.
Non, pas grand chose, c'est vrai que... Non, je rejoins juste Patrick.
Ouais, c'est bien, donc vas-y, dis en plus, Escarina, sois d'accord avec moi, c'est bien. J'aime bien quand ça se passe comme ça.
Non, je te rejoignais juste sur Carrion, c'est le seul truc qui m'a un peu tapé dans l'œil. Pour le reste, j'attendrai de voir le reste du catalogue.
D'accord. Oscar ?
Je suis un peu comme un con parce que j'ai oublié son nom, mais il y avait le truc avec les centaines de bonhommes qui essayent d'escalader le...
Ah, Fall Guys.
Voilà. Qui m'a pas mal intrigué aussi.
J'ai beaucoup aimé le Devolver Bootleg, qui est le truc hyper méta où ils te vendent un jeu qui est une collection de mini-jeux genre piratés ou copiés de leur propre jeu, et dans la présentation ils disent mais attends, donc on va vendre un truc qui est des fausses copies de nos jeux à des gens qui vont en plus nous donner de l'argent pour ça, et en fait les copies ont l'air tellement marrantes et bien foutues que bah oui, pourquoi pas, moi je pense qu'il y a des gens qui vont l'acheter, donc bien foutu ce truc Devolver, pour une fois j'étais client. On verra s'ils reprendront l'année prochaine. Deux conférences qui sont généralement les plus longues et les plus pénibles de l'E3. E3 VR, alors c'est la première fois qu'elle y était. Et je dois dire quand même en introduction qu'il y avait une initiative intéressante là-dedans. C'est Upload VR, qui est un petit site de réalité virtuelle, enfin un petit site, un gros site, mais dans le contexte de la réalité virtuelle forcément c'est pas un site énorme, qui s'est dit bah, y a pas de raison, on va nous aussi faire notre showcase comme les grands. Et ils ont dû envoyer des mails aux gens qui faisaient des jeux de VR et de leur dire envoyez-nous des présentations, et eux ils ont lié tout ça avec le rédac chef du site qui s'est dit bah, je vais faire une petite des petits segment pour passer d'un moment à l'autre, et c'est vraiment, mais c'est filmé à la webcam, c'est n'importe quoi. Certaines des présentations des studios sont bien foutues, d'autres ils avaient un son qui était encore moins bon que le son de la webcam du rédac chef qui faisait les trucs, mais au final franchement j'ai trouvé ça hyper courageux, hyper intéressant, et ils ont eu une visibilité qui était évidemment pas comparable à celle d'un Ubisoft ou d'un Microsoft, mais ils étaient présents à l'E3. J'ai trouvé ça vraiment une initiative intéressante et bien foutu. Bon, ensuite, les jeux, on peut en parler. Je vais juste mentionner le PC Gaming pour nous laisser du temps sur les trois dernières conférences. Le PC Gaming qui, moi, pour le coup, était complètement raté. Ils ont supprimé le canapé pour que ça soit pas trop long, et ils l'ont remplacé juste par la même chose, mais les gens étaient debout pour parler de leur jeu, et c'était des questions complètement attendues et des réponses qui n'amenaient rien d'intéressant. Et en plus, j'ai trouvé que la plupart des jeux, l'immense majorité des jeux, n'étaient pas très intéressants, donc j'ai été très déçu. Je vois que Baldur's Gate 3 a été mentionné dans la conférence PC Gaming, ce qui me rappelle qu'on n'en a pas parlé comme annonce de Stadia. C'était quand même une énorme annonce qui a fait défaillir tous les gros geeks de plus de 30 ans.
Je fais partie.
Dont tu fais partie. Voilà.
Moi aussi.
Donc, bon, on pourra peut-être en dire un mot dans le contexte de la conférence PC Gaming. Mais oui, ça, c'était une grosse annonce, effectivement. Je pense qu'il y a des auditeurs qui poussent un ouf de soulagement qu'on ne l'a pas oublié, donc on va en parler. Mais entre la conférence E3 VR et PC Gaming, ce que vous retenez, là, pour le coup, on pourra peut-être parler de plus d'un jeu, parce qu'il y aura Baldur's Gate 3 qui sera forcément mentionné. Bah encore une fois, Escarina, du coup, j'imagine que c'est Baldur's Gate qui t'a particulièrement marqué.
Oui, alors c'est pas le seul à m'avoir marqué. À côté de ça, j'avais vu les trois petits jeux indés, Unexplored 2, Griftlands et Crystales, ou Crystales, je sais pas comment il faut le prononcer. Mais j'avoue que le trailer de Baldur's Gate 3 m'a mise en émoi. Je me suis retrouvée à mes 13-14 ans, parce que c'est mon premier RPG PC, donc forcément la nostalgie. Donc voilà, après, encore une fois, il faut voir où ça va nous mener, mais j'avoue que c'est le trailer qui m'a lancé en plein dans le 3, il a tapé là où il fallait quoi.
Et puis en plus l'Ariane qui fait Baldur's Gate, c'est exactement le studio qui devait s'en occuper quoi. C'est vrai qu'on n'a rien vu du tout, on n'a pas vu de gameplay et le PC Gaming le teasait depuis le début, on s'est dit bon on va voir un petit peu de gameplay en fait, non évidemment s'ils avaient du gameplay ils l'auraient gardé pour quelqu'un de plus gros mais donc c'était un
puis
petit
là,
peu
ils ont, ce niveau, mais... ils ont de la concurrence sur leur terrain, on a quand même quelques studios qui ont fait du très très beau boulot dans leur catégorie type RPG à l'ancienne, à l'occidentale, on va appeler ça comme ça. Là ils ont du boulot à rattraper je pense pour se démarquer, donc c'est intéressant, on va voir comment ça se passe.
Oscar, un truc à retenir entre ces deux confs?
J'ai pas vu la conf hier, mais pour la conf PC... honnêtement, la conf PC pour moi c'est plus un truc où tu sais, il y a beaucoup de jeux indés et c'est l'occasion de voir des trucs et de dire ah tiens ça peut être sympa, puis un peu zapper jusqu'à ce que pour certains ça revienne et qu'on en parle davantage au moment où les jeux sortent. Je crois qu'à la limite le jeu qui m'a le plus marqué c'est le, j'ai oublié son nom, mais c'est le celui qui la simulation de requin.
Ah oui, Maniteur, on l'avait vu l'année dernière, il était très...
On l'avait déjà vu l'année dernière, ouais, effectivement, mais là, il y a eu une présentation du gameplay, puis juste pour le costume de requin de la présentatrice.
Oh, moi, j'ai trouvé que ça passait pas du tout, quoi. Ça, j'ai trouvé que ça...
En fait, au moment où c'est passé, je suis sorti fumer une clope à ce moment-là, je reviens, et là, je vois la présentatrice avec un costume de requin qui discute genre normal, et du coup, ça sur moi, ça a marché.
Effectivement, dans ce contexte, pourquoi pas.
Sinon le jeu en lui-même, le jeu en lui-même, je trouve ça sympa comme délire. Quoi.
Ouais, sympa comme délire. Je pense que c'est une bonne description. Aurélie, un truc qui t'a plu dans toutes ces choses-là?
Comme Oscarina, c'est vraiment une super nouvelle de revoir Baldur's Gate et j'attends ça avec impatience. Mais j'avoue que j'ai pas vu la conférence PC Gaming et j'ai lu un débrief pour la VR conférence, donc je l'ai pas vu non plus en live.
Je vais juste mentionner pour la PC Gaming ce que t'as dit aussi, Eska, c'est Griftlands, le nouveau jeu de clé qui est en fait une sorte de roguelike de deck building. Donc pour ceux qui connaissent Slay the Spire, c'est un peu ça, sauf que on peut aussi utiliser les combats entre guillemets en cartes pour résoudre des situations sans combat. Genre il y a des discussions, négociations qui peuvent être faites avec les cartes. Ce qui est intéressant, c'est en alpha le 11 juillet. Et puis pour la conférence VR, il y a quelques jeux à retenir. Il y avait en gros trois catégories de jeux. On va dire il y a les galeries de shoot, les dioramas sur lesquels on a des sortes de puzzles et étonnamment les sortes de Skyrim-like, un petit peu des jeux de fantasy où il faut utiliser les manettes pour parer et pour attaquer les monstres qui viennent vers nous, qui peuvent être intéressants. Parmi ceux-là, c'est Asgard's Wrath qui m'a paru le plus intéressant. Il a l'air vraiment bien conçu et je me dis pourquoi pas, on commence à comprendre un petit peu comment utiliser la VR. On est encore au début de cette technologie tellement compliquée, mais ça commence à donner quelque chose. Et puis surtout, le jeu que tout le monde a retenu, je vous encourage à aller le googler si ça vous savez pas de quoi il s'agit, c'est Pistol Whip, donc le jeu de Cloudhead Games, qui est une sorte de mélange entre un jeu de tir et un jeu de rythme, et un petit peu John Wick, encore lui, où c'est hyper stylisé, c'est très coloré, et on doit se déplacer dans l'environnement, enfin ça avance tout seul, et on choisit sur qui on va tirer, là où on va tirer, mais en rythme. C'est presque presque un petit peu comme Odika, mais plus original. C'est difficile à décrire, mais l'impression que ça donne quand on voit le jeu, c'est que c'est un truc qu'on a envie de faire immédiatement. Je crois que c'est l'un des jeux en réalité virtuelle qui m'a donné le plus envie de l'essayer, si ce n'est le jeu qui m'a donné le plus envie. C'est vraiment un truc qui est séduisant tout de suite. Pistol Whip, ça s'appelle, et c'est le jeu dont tout le monde parle de cette conférence avec raison. Ils l'ont gardé en dernier pour cette raison.
Ça m'a fait penser un peu à Super Hot dans ouais. La DA.
Tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu, il y a un petit peu de Super Hot là-dedans aussi, ouais. Bon, il y avait plein d'autres choses dans la conférence VR, mais rien de vraiment, vraiment notable. On pourrait en parler si on était des grands amateurs de VR, mais je pense que ce n'est pas forcément le cas. Donc, on va passer et puis on va faire les trois dernières grosses conférences.
Alors, je peux juste en placer une vite fait sur...
Parce que
du coup, tu comptes pas parler de la conférence Kindafony?
Kind of Funny, oui, non, je vais t'avouer que je ne l'ai même pas vue. C'est la seule que j'ai ratée, avec, peut-être avec Limited Run, mais bon, ça c'est...
Alors,
que des
sorties. Juste pour placer le nom de Super Liminal qui a été dans la conf, et qui, enfin, je vous invite à regarder le trailer si vous ne l'avez pas vu. Franchement, regardez juste le trailer. Je vous laisse la surprise.
Super,
ça a l'air très intéressant.
Liminal ou Luminal?
Super Liminal, tout attaché.
Super Liminal.
Ouais, voilà.
Ok, bon, bah, je vais chercher ça. Ça a l'air...
Enfin, voilà, je sais pas où ça ira. Je sais pas si ce sera vraiment réussi. Apparemment, c'est en développement depuis un bon bout de temps, et ça doit être bien compliqué à développer. Mais okay. ça a l'air très... Enfin voilà, je laisse la surprise à tous les auditeurs. S'ils ne l'ont pas vu, juste regardez ça, ça vaut le coup, quoi.
Ah oui, je suis en train de regarder le trailer. C'est hyper étrange, hein.
Voilà.
Ah oui, non mais c'est... Ok, d'accord. J'ai regardé 20 secondes du trailer et déjà ma tête est en train d'exploser.
Ça fait un peu penser au concept type Stanley Parable qui
ouais.
T'amène...
Non, mais spoil pas trop.
Ça m'a fait penser à ça.
Ah, c'est celui avec les cubes, là, avec les cubes...
Mais spoilez pas. Mais ne dites rien.
Je ne dis rien.
Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, très bien. Ajout important. Merci beaucoup, Oscar Lebert. Donc, on disait où on en est à Ubisoft. Alors, Ubisoft, c'est... je l'appelais dans l'émission en anglais que j'ai fait hier. C'était un petit peu la conférence Tom Clancy. Il y avait à peu près 14 millions de jeux Tom Clancy différents, des extensions pour les jeux existants, des nouveaux jeux, etc. etc. Une présentation d'une série télé Mythic Quest avec l'un des acteurs créateurs de la série It's Always Funny in Philadelphia, qui sera en fait une série basée dans un studio de jeux vidéo qui a reçu l'aide de Ubisoft pour l'authenticité de la série, ce qui est intéressant, qui arrivera sur Apple TV+, mais c'était un petit peu qu'est-ce que ça fout là, mais bon, quand même. Du contenu pour Rainbow Six Siege, qui décidément ne meurt jamais. Du contenu pour For Honor, qui lui aussi, enfin, à chaque fois que je vois une image de ce jeu, j'ai envie de retourner y jouer. Vraiment un suivi incroyable. On a parlé de Uplay Plus, donc on ne va pas revenir dessus, mais moi, je pourrais être client s'il y a un tarif annuel. Rainbow Six Quarantine, qui est un jeu à 3 joueurs en coop qui sort début 2020, donc un nouveau Rainbow Six, mais plutôt PVE que PVP, contrairement à Siege. Roller Champions, qui est disponible en pré-test aujourd'hui, qui est un jeu... La meilleure comparaison, c'est... aidez-moi, Rocket League, voilà, merci de m'avoir aidé. Roller Champions, qui est un jeu de roller, en fait, j'ai fait quelques parties, c'est vraiment sympa. Ça se compare un petit peu à Rocket League, mais bon, c'est pas du tout la même chose, parce que là, on joue au roller. C'est en fait Roller Quidditch, en quelque sorte. Très sympa, très coloré, très mignon, ça pourrait donner quelque chose. Et puis, en fin de conférence, un des morceaux qui sortira le 25 février, qui s'appelle Gods and Monsters, qui est un petit peu une sorte de Zelda en Grèce, en fait, de Zelda Breath of the Wild. C'est le look de Zelda Breath of the Wild, mais ça se passe en Grèce. C'est par l'équipe de Assassin's Creed Odyssey, que, évidemment, j'adore, comme tout le monde le sait. Intriguant. Et, évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais Watch Dogs Legion, donc Watch Dogs 3, dont je pense qu'on va parler un petit peu plus dans un instant. Mais du coup, je me retourne encore une fois vers Eska. Quel est le jeu que tu as retenu dans tout ça ?
Écoute, pas grand-chose dans cette conférence Ubisoft. Je suis restée un peu sur ma faim. Non, il y a juste Gods and Monsters à la fin, qui m'a interpellée par sa ressemblance évidente au dernier Zelda. Donc, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont proposer en termes de gameplay pour se différencier un petit peu de ça. Mais à part ça, pas grand-chose.
Ah oui, d'accord, ok. Oscar ? Quid de
un peu pareil en fait. C'est comme je disais pour la comp Bethesda, je trouve ça frustrant qu'ils montent pas de gameplay pour ce jeu-là, alors que c'est un truc intéressant. On sait pas à quoi s'attendre et puis on a juste une vidéo quoi. Mais bon, après le Watch Dogs m'a quand même bien intrigué.
Ah bah
bon,
merci quand
terme.
Même. J'allais commencer à m'énerver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Non.
Ouais.
Non mais alors, après c'est délicat parce que en fait je trouve le concept très intéressant. Je pense que ça peut être très sympa, mais je suis extrêmement méfiant. Enfin, je suis même pas méfiant. Je serais très surpris si on avait une écriture vraiment intéressante. Alors que le setting. Possibilité d'écriture, je trouve très intéressante, mais avec Ubisoft, je m'attends à un jeu qui va, comme ils l'ont dit récemment en interview, qui va essayer de pas prendre parti, de pas être politisé, machin. Enfin bref.
Ouais, enfin ils ont quand même lancé le. Pardon, vas-y, finis.
Ouais, non, mais enfin, je trouve que c'est du gâchis, quoi, parce qu'il y a, je trouve, un très bon potentiel d'écriture pour un jeu de ce genre-là, et bon, voilà.
Bon, la conférence a quand même commencé avec Watch Dogs et ils ont dit c'est un Londres post-Brexit où c'est la merde partout, le gouvernement n'existe plus, c'est pas hyper méga politique dans le ton, c'est sûr, le jeu en lui-même, encore que, mais ils sont pas en train de dire Farage est un imbécile, c'est sûr, mais le message qui sous-tend le truc est quand même relativement clair.
Non, justement, je trouve pas. C'est parce que, enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un côté, voilà, ils font un truc un peu, tu vois, ils soulignent, il y a plus de liberté parce que surveillance, machin. Donc ça peut être intéressant, mais en même temps, ils vont de l'autre côté avec une idéologie un peu à la The Division où du coup c'est le chaos, il faut faire régner l'ordre, machin. C'est très étrange. Après, je sais pas, peut-être que je serais surpris positivement, mais je le sens pas, quoi.
Je crois que c'est pas vraiment le jeu.
L'écriture
n'a pas comme but de te proposer une narration incroyable.
Mais pour là moi, c'est ça le problème, quoi.
Ouais.
Je pense que le concept est intéressant et que ça peut faire un bon jeu, mais je pense que ce serait un excellent jeu si en plus il y avait une très bonne écriture derrière. Et ça me semble mal barré parce que ils s'auto-censurent sur la façon d'écrire et je trouve ça très dommage.
Ouais, c'est moi, déjà je pense des défauts des précédents en plus, je trouve.
Et voilà. Et puis
ouais,
de la plupart
c'est
des
comme,
jeux Ubisoft.
C'est comme demander un film, un blockbuster, d'avoir un message de film d'auteur. C'est pas, c'est tellement des jeux énormes que là, c'est pas l'intérêt. Enfin, en tout cas.
Je suis pas d'accord avec cette comparaison parce que un blockbuster, tu vois, genre un Avengers, un Marvel, on lui demande pas d'avoir une écriture brillante, mais c'est parce que c'est un truc qui est assez court, tu vois, sur un jeu open world où t'es censé y passer des dizaines d'heures, ce serait bien d'avoir quand même une écriture qui soit vraiment au rendez-vous pour vraiment exploiter ça, quoi, parce que je trouve que la longueur d'un jeu, les trucs comme ça offre un potentiel d'écriture en plus, et je trouve ça très dommage que ce soit pas saisi pleinement par Ubisoft, quoi.
Je vais pas te contredire, ça serait bien, mais je crois que là c'est pas l'intérêt du truc. On a quand même réussi à parler 5 minutes de Watch Dogs Legion sans parler de sa feature qui est une promesse absolument incroyable. Peut-être avant d'en parler, Pardon, Oscar ?
Je faisais juste confirmer que c'est effectivement c'est un truc très intéressant, cette possibilité de voyager.
Juste avant d'en parler, je vais encore décaler encore un petit peu pour demander à Aurélie si elle veut dire ce qu'elle pense de ce que disait Oscar. Et puis après, on parle justement de cette possibilité d'incarner tout le monde. Mais sur l'histoire du message, tu es d'accord toi aussi avec Oscar que c'est dommage et qu'on en voudrait plus de messages politiques, en fait, c'est ce que tu dis.
Ouais, après c'est difficile de juger sur un trailer E3 qui veut être consensuel. Peut-être que dans l'écriture il y aura des partis pris. Donc j'attends de voir le jeu. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Oscar. C'est le jeu qui pour moi ressortait parce qu'il y a une super promesse de pouvoir recruter n'importe qui, de naviguer entre les personnalités. Ça m'a vraiment plu. Moi, c'est un peu délicat pour moi de juger la conférence Ubi parce que j'ai travaillé chez eux pendant longtemps, c'est un peu ma famille de cœur et puis surtout j'ai beaucoup travaillé sur des Tom Clancy, hein, j'ai sorti plusieurs Splinter Cell, mais je suis un peu restée sur ma faim sur cette conférence parce qu'il y avait beaucoup de Tom Clancy et stratégiquement j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix d'en annoncer autant. Pourtant j'ai travaillé sur cette marque, mais j'arrivais plus à faire la différence entre les différents jeux au final. Ouais.
Et c'est vrai qu'au bout d'un moment,
devient je sais plus ce qu'ils ont annoncé, mais pourtant je les connais très très bien, hein, mais là c'était beaucoup trop et du coup il y en a aucun qui est ressorti du lot. En plus à moins que j'ai loupé quelque chose, il n'y a pas eu d'annonce sur Splinter alors que c'était vachement attendu. Il me semble avoir vu une image dans un des trailers, je sais même plus lequel, avec les goggles, mais
C'était Elite Squad, le jeu mobile qui est une sorte de XCOM et qui inclut plein de personnages de tous les Tom Clancy.
Je l'ai mélangé avec d'autres. Mais bon, pour le coup, c'est vrai que Watch Dogs, c'est assez intriguant d'être dans un futur proche. Et je suis d'accord avec Oscar, il va falloir qu'il s'engage un petit peu parce que sinon, ça risque d'être un petit peu plat, quoi.
Ouais, moi, je dirais sur ce point, je suis d'accord, mais je pense que vous seriez beaucoup moins content si Ubisoft ou un autre s'engageait sur une idée genre « Ah bah oui, mais l'Europe, c'est pas bien, il faut regagner sa souveraineté nationale, machin. » Donc, la politique, c'est toujours compliqué. On veut plus de politique quand on est d'accord avec ce que les gens disent. Donc, le fait d'être consensuel, c'est quand même aussi un truc que... Donc bon, si c'était le comité de défense de Boris Johnson et Nigel Farage, je crois que ça serait moins reçu, moins joyeusement par certaines audiences. Mais bon, passons un petit peu sur ce sujet, sur les messages dans le jeu vidéo qui pourrait être un énorme épisode à lui tout seul. Et parlons de la promesse technique de gameplay de Watch Dogs, dont on n'a même pas détaillé le fonctionnement jusqu'à maintenant dans l'émission. Mais donc je vais le faire. En fait, l'idée, c'est que Watch Dogs Legion est un jeu donc post-Brexit où il y a un état totalitaire bouffé par les mafias et les sociétés qui exploitent la ville. Et pour lutter contre ça, on fait partie de DedSec, comme dans les épisodes précédents, mais ça a l'air d'avoir très peu de liens avec ceci. On fait partie de DedSec et il faut recruter des membres de notre équipe de DedSec qui peut inclure, je ne sais pas, des dizaines de personnes. Et l'idée, c'est que n'importe qui dans la ville peut être recruté. Et n'importe qui a des caractéristiques, une histoire, un parcours dans la ville... Et on peut aller les récupérer. Et chacun a des spécialisations. Il y a trois grands archétypes, mais ensuite qui sont déclinés en fonction des capacités de chacun. Et quand on dit n'importe qui, il y a un moment absolument hilarant dans le trailer où au début, on joue un gros dur qui va aller castagner, j'aime bien les termes d'il y a 50 ans, qui va aller castagner les gardes pour essayer de récupérer un autre membre et d'aller le convaincre. Les choses se passent mal, il périt dans l'action, et là on se rend compte que, en fait, il est vraiment mort. Et il y a un poids, je trouve, à ce moment, qui est que le joueur comprend. En fait, le personnage dont on aurait pu penser c'était l'archétype du personnage principal, et là, en fait, il est mort. Et je trouve que ça aide à justifier ce qui est souvent une discordance cognitive dans les jeux où nous, on tue plein de gens et on meurt jamais. Là, oui, on peut être très très bon, mais à un moment, on va peut-être mourir. Et du coup, on passe à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est pas un gros dur qui castagne, c'est une gentille mamie retraitée qui nourrit les pigeons et qui marche avec, bien sûr, plus de difficultés que le sport sportif et qui est une ancienne espionne et qui va aller hacker des trucs. Et même à un moment, on se disait, bah oui, elle peut pas forcément se battre. Et ben si, elle met un coup de tatane dans le tibia d'un type et le shoot en pleine tête. C'était, j'ai trouvé ça, d'une part, jouissif dans la présentation et puis surtout, dans la promesse, incroyable. Il y a énormément de questions et on n'y a pas vraiment de réponse. C'est, est-ce que toutes les animations vont être différentes? Est-ce que les voice-overs, enfin les doublages vont être tous différents? Ou est-ce qu'ils en ont enregistré quelques dizaines et puis qu'ils vont moduler de manière à en créer plus de différentes? Est-ce qu'il y en a, s'il y en a tellement et que les histoires et les personnages ne sont pas si différents que ça, est-ce que ça deviendra que des skins en fait et que le fait de jouer un tel ou un tel n'aura plus vraiment d'importance? Ça amène énormément de questions, énormément d'interrogations, mais je trouve que la promesse est tellement folle, l'idée de pouvoir jouer n'importe quel personnage, de recruter n'importe quel personnage dans cette ville est tellement folle qu'on ne peut pas ne pas être séduit, quoi. Ça sort le 6 mars 2020, donc dans un petit peu moins d'un an, et j'ai trouvé ça assez fou, personnellement.
C'est vrai qu'on était peut-être un petit peu pessimiste en parlant du jeu, mais ça c'est assez incroyable. En fait, je ne sais pas combien ils sont à travailler dessus. J'ai pas regardé non plus le nombre de studios qu'il y avait, mais enfin, il y a qu'eux qui sont capables de faire ça. Hein. Et peut-être c'est des projects. Voilà.
C'est très ambitieux. Hein. Oscar, quelque chose à ajouter là-dessus?
Non, juste souligner que finalement, enfin, c'est, je rejoins totalement ce que tu dis sur le fait que ouais, le concept est très intrigant, très intéressant, et ça doit être un travail de dingue à le rendre fonctionnel, quoi. Et en fait, je souligne juste que finalement, c'est un peu le concept mais multiplié par 1000 de GTA V. Avec les trois personnages. Et je trouve ça intéressant parce que finalement personne n'a repris ce principe d'avoir plusieurs personnages dans un open world et de pouvoir zapper entre eux. Même Rockstar l'a pas refait pour Red Dead, et là il y a enfin voilà quelqu'un qui dit bah, on va reprendre l'idée mais on va faire un truc encore 100 fois plus ambitieux, et je trouve ça très intéressant comme démarche.
Il y a vraiment, enfin ouais, il y a tellement de questions parce que du coup, est-ce que les gens vont avoir des réactions différentes dans les cinématiques, dans les missions, ou alors est-ce que c'est juste comme je le disais le skin et à ce moment c'est un petit peu décevant. Bon, je sais pas. J'imagine qu'il faudra attendre de voir comment le jeu se passe. Et surtout, la grande question dans ce genre de système très complexe, c'est à partir de quel moment, et ça arrive forcément, à partir de quel moment est-ce qu'on réussit à voir derrière le rideau, en fait ? À quel moment on comprend les systèmes et on voit la mécanique et on voit comment ça marche et du coup, la magie s'estompe un petit peu. Soit ça va prendre 10 minutes et du coup, ça va être un petit peu décevant, mais si on a déjà quelques heures en se disant on peut jouer dans cet environnement de cette manière, ça sera une réussite, je crois. Parlons de Square Enix, là où Ubisoft était la société de la conférence de Tom Clancy. Square Enix, c'était la conférence de Final Fantasy. Final Fantasy Remake, Final Fantasy VII Remake, dont on a vu beaucoup plus d'images et de gameplay. Il sort le 3 mars 2020. Décidément, l'année 2020, le début de l'année 2020 va être complètement fou. Ça va coûter très cher aux joueurs assidus. Et donc, ça arrive le 3 mars 2020 et ça sera une série. Le premier jeu qui risque d'avoir une bonne durée sera uniquement dans la ville de départ, Midgar. Donc ça, c'était un truc qu'on aurait pu attendre, mais il y aura d'autres jeux après, ce qui me fait un petit peu peur. Il y a eu plein de choses qu'ils ont montrées. Et puis à la fin, Avengers, dont on pourra parler dans un instant. Mais du coup, sur toutes les choses qu'ils ont montrées, Romancing Saga, le remaster de Final Fantasy VIII, quoi d'autre, Octopath Traveler qui arrive sur Switch, Dragon Quest Builder 2, Dragon Quest 11S sur Switch, un petit jeu à la Hot Rods, Circuit Superstars, qui a l'air marrant, qui arrive en 2020. Plein de choses. Qu'est-ce que vous retenez, Escarina, à toi? Escarina?
Pardon, si je me démute pas, forcément, vous risquez pas de m'entendre. Donc effectivement, ouais, j'ai Outriders qui m'a tapé dans l'œil, mais forcément, j'ai été complètement charmée par Final Fantasy VII. Forcément, quand on revoit minutes du jeu avec les nouveaux graphismes, j'en avais la chair de poule. Après, c'est encore une fois la grosse geek de 30 ans qui parle, donc du coup, c'est pas... Mais après, j'ai un peu peur du format épisodique. On a vu ce que ça a donné avec Final Fantasy XV, donc jusqu'où ils vont réussir pour nous faire payer, pour... bon, on sera tous à l'abonnement d'ici là, donc ça ira, mais non, ça nous coûtera pas cher. Donc voilà, très séduite par l'emballage, un peu inquiète pour ce qu'il y aura vraiment derrière, parce que les dernières productions de Square Enix, dont FF15, m'ont pas forcément complètement réjoui.
Le système de combat avait l'air intéressant. On a un combat en temps réel, mais on a une barre qu'on charge. Et quand on a chargé la barre, on peut activer une habilité, une capacité spéciale, un petit peu de la même manière qu'on le faisait dans les combats au tour par tour de l'original. Ce qui est une idée amusante, je trouve. Mais oui, à voir ce que ça donne.
Puis ils ont eu raison de ne pas rester sur le vieux système de combat au tour par tour, avec les combats qui se lancent aléatoirement toutes les 5 secondes et demie. Je pense qu'on aurait tous jeté notre manette au bout d'une heure de jeu. Donc.
Ouais, je suis assez d'accord. Oscar, un truc que t'as retenu ?
Pareil, FF7.
Ouais.
même si je suis pas, je l'avais pas fait à l'époque, donc forcément l'effet nostalgie marche nettement moins sur moi, mais malgré tout, ça fait envie et surtout, enfin, je trouve que voir toute la joie des fans, c'est extrêmement communicatif et j'ai l'impression d'attendre le jeu comme si j'étais un fan de l'original, quoi. Alors que c'est pas le cas, ce qui je trouve assez fou et ce qui montre, je pense, qu'ils ont vraiment bien réussi leur présentation.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, il me séduit petit à petit et moi qui suis pas d'habitude très fan des idées rétro, je me dis pourquoi pas.
Et d'ailleurs, j'ai acheté l'original sur Switch dans la foulée parce que ça m'a tellement donné envie. Ouais, vu qu'il était en promo en plus. Enfin, il l'est toujours. C'était un jeu que j'ai toujours eu envie de faire pour la culture et dans sa version originale. La hype du moment m'a motivé à passer à l'acte.
Bon, tu nous diras ce que tu penses de l'original à un moment quand tu auras un peu joué.
Avec beaucoup de retard.
Aurélie, qu'est-ce que tu retiens de cette conférence ?
Moi, c'était vraiment Outriders, pardon, parce que je trouve que le studio m'intrigue aussi. Je crois qu'ils sont polonais.
People Can Fly, qui avait fait à l'origine Painkiller il y a très longtemps, ils avaient fait Bulletstorm. Ouais. C'est des Polonais ou c'est possible ? Je crois que c'est des Européens.
Je sais pas. Il me semble qu'ils viennent des pays de l'Est. En tout cas, je trouve que esthétiquement parlant, il y a un truc un peu spécial qu'on voit pas souvent dans les jeux sci-fi. Et ça m'a beaucoup plu. Ça mêlait un peu de la fantasy. Mais bon, on n'en sait pas grand-chose encore. Hein. Donc,
L'héroïne a un charisme fou.
Ouais, et puis je sais pas, le trio il fonctionne plutôt bien.
C'est un FPS en coop, drop in, drop out, qui a une esthétique assez particulière qui était assez intéressante. Et je confirme, ils sont polonais.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouvais qu'on retrouvait plein de choses qu'on voit dans des BD souvent, mais pas trop dans les jeux vidéo. Et ça me plaît bien. Mais c'est aussi parce que je suis pas une joueuse de Final Fantasy, donc du coup, ça me parlait moins.
Du coup, il reste moins de choses chez Square, c'est sûr.
Voilà.
Moi, celui que je retiens en me forçant un petit peu, c'est Avengers. Même si j'avoue que on l'attendait énormément, on en parlait depuis 3 ans à l'E3, il le présentait pas. Et graphiquement, du coup, c'est un petit peu ambigu parce qu'on est entre les comics et les films, mais sans que ça soit les films. Je comprends que ça déroute certains. Moi, ça m'a pas trop gêné, mais je comprends que ça le fasse. On avait des rumeurs sur un jeu multijoueur as a service à la Destiny et ils nous ont montré plutôt une séquence limite cinématique en solo. Et ils ont dit donc le jeu, il y aura une expérience solo. Et après ça, ils sont venus en disant à la fin, il y aura aussi un truc multijoueur as a service. Donc j'imagine moi qu'il y aura 5 heures de solo et puis après, on aura le vrai jeu entre guillemets qui sera le jeu en multi. et on a eu très très peu d'informations sur le gameplay. Les premiers retours disent bon, bah, c'est un gameplay un petit peu classique, pas super excitant, mais voilà. En même temps, moi, les scènes qu'on a vues qui sont jouées, les cinq Avengers sont jouées, en tout cas, il y en a trois qui sont jouées par les plus grands doubleurs de jeux vidéo, Troy Baker, Nolan North, Laura Bailey, et il y en a deux autres, et qui font passer en deux phrases, j'ai trouvé cette scène entre Tony Stark et Bruce Banner, en deux phrases, ça te fait passer une émotion qui t'implique complètement dans le truc, mais je comprends bien qu'on n'en a pas vu grand-chose. En gros, je ne sais pas quoi en penser. J'attendais un reveal beaucoup plus explosif. Clairement, moi, je ne trouve pas que ça soit un pétard mouillé, mais ce n'est pas le feu d'artifice que j'imaginais. Et je crois qu'on n'en a pas vu assez pour vraiment savoir. Ils ont dit que les ajouts seraient gratuits, donc j'imagine qu'il y aura de la customisation, mais on ne sait rien de la progression dans un jeu multi à la Destinée, il faut une progression, donc ça se passera comment, enfin, aucune idée de rien de tout ça, donc je sais pas, il sort le 15 mai 2020, je suis circonspect, on va dire, même si je reste, on va dire que je reste, comment dire, j'ai de l'espoir, mais je sais que cet espoir est aussi porté par mon amour de la licence et de l'univers Marvel. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ou si on passe à Nintendo pour finir. Bon. D'accord.
Moi, je voulais juste dire que enfin, pour enfoncer le clou, je trouve vraiment que le chara design, ça passe pas, quoi. Je trouve ça vraiment problématique et je pense que c'est parce qu'ils ont pas, ils ont quand même trop voulu coller aux personnages, enfin aux acteurs, quoi, des films, et sans oser faire un truc vraiment différent, et du coup ça fait vraiment la copie foireuse des films, quoi. Et
je comprends, ouais. Je comprends cet avis. Je trouve aussi que les personnages existent dans les comics et il y a une relative connexion à ces personnages aussi. On est à mi-chemin, donc... Ouais, bon. Mais je comprends. Nintendo, donc, tout plein de petites choses qui ont été présentées, représentées. Link's Awakening sort le 20 septembre. On a Pokémon Sword and Shield, on savait qu'il sortait le 15 novembre, je crois. En tout cas, maintenant, c'est confirmé. Animal Crossing New Horizons a été décalé un petit peu au 20 mars. Cadence of Hyrule, par contre, sort demain, le 13. Je pense que beaucoup d'entre nous l'attendent. On a quoi d'autre ? On a Astral Chain qui sort le 30 août, le jeu de Platinum, Contra Rogue Corps qui est d'une mocheté, mais je comprends même pas que Nintendo ait accepté de présenter ça, c'est horriblement laid. On a eu un petit peu plus, alors Collection of Mana qui inclut plein de trucs, il y a Trials of Mana qui arrive début 2020, Collection of Mana, donc une collection des Seiken Densetsu, Witcher 3 étonnamment qui arrive en 2019, bon évidemment gros downgrade graphique mais il arrive, Luigi's Mansion 3 qui ravira les fans, enfin il y a plein de petites choses, des personnages supplémentaires dans Smash Bros, Fire Emblem, on a encore eu un truc, et bien sûr, à la fin, le trailer, ou même pas un trailer, un tout petit extrait de Zelda Breath of the Wild 2, qui aura peut-être un titre différent, qui, je pense, a mis par terre l'ensemble de l'E3, y compris moi, parce que juste, on veut plus de Breath of the Wild. Parmi tout ça, qu'est-ce qui vous a le plus séduit, Escarina ?
Alors moi, je suis pas une joueuse de Zelda, donc du coup, effectivement, j'ai trouvé le trailer très très chouette, mais ça m'a pas plus touché que ça. Par contre, la date de sortie d'Animal Crossing, là, oui. Ouais, désolée, c'est chacun ses vices. Hein, donc... Moi, c'est Animal Crossing, quoi.
Moi, je suis pas du tout Animal Crossing et pas du tout Pokémon Sword and Shield, donc tu peux imaginer que je me fais des ennemis chez les Nintendo fans.
Non, mais en vrai, je suis toujours très contente de la sortie d'un nouvel opus Animal Crossing.
Toi et des millions de gens. Hein.
Oui, mais bon, par contre, je suis un petit peu déçue par l'aspect visuel. Je trouve que le gap graphique entre l'épisode de la 3DS et de la Switch est loin d'être énorme, mais ça m'embête un peu.
Ah, après, tu voulais du ray tracing dans Animal Crossing, je comprends bien.
Exactement.
Oui, du brouillard volumétrique, tout ça, évidemment.
Dans tous les sens. Non, mais quoi qu'il arrive, je l'achèterai, parce que voilà, donc... J'aurais apprécié, je sais pas, un petit peu plus côté graphique.
D'accord.
C'est juste pour dire quelque chose, quoi.
Oscar, qu'est-ce que tu retiens ?
Moi, je suis pas vraiment Animal Crossing, donc, et puis par contre, je suis Zelda, donc forcément, le trailer, surtout que vraiment c'était la surprise, quoi. On s'y attendait vraiment pas, donc ça a fait son effet. Et pour sortir de ce qui est une banalité quand même, pour sortir un peu de ça, j'ai été pas mal intrigué par le Luigi. Le Luigi Mansion 3, même si bon, ça m'a pas non plus passionné des masses, mais je trouvais que ça prenait une tournure intéressante.
D'accord. Ouais, moi, pareil, je suis pas non plus Luigi's Mansion, mais il a ses fans, le petit Luigi. Aurélie, qu'est-ce que tu as retenu ?
Moi, je prends tout. Moi, je veux tout.
Moi, t'arrives pas à choisir ?
Non, j'arrive pas trop à choisir. C'est vrai, Breath of the Wild, forcément, le 2, c'est juste incroyable d'avoir cette annonce-là. Mais même, bon, s'il y avait des petites rumeurs quand même. Mais pour sortir des choses un peu classiques, j'ai entendu parler d'un Dark Crystal qui sortirait sur Switch. Mm-hmm. Et voilà, pour la nostalgie des années 80, pourquoi pas ?
Ouais, un Tactics, effectivement.
Il y a aussi Tactics, ouais, je suis pas trop. Ouais.
Les premiers aperçus font un peu peur, hein, franchement.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais bah, ils ont essayé de coller aux animatronics de l'époque, mais ouais.
Mm-hmm. Oui, c'est pas, ça fait un petit peu peur, mais bon, pourquoi pas. Ou The Witcher aussi, parce que voilà, j'ai une Switch et j'ai envie de tester, mais bon, ça sera jamais.
Oui.
Jamais comme sur une console de salon, quoi.
Évidemment. Quoi d'autre ? J'ai pas mentionné, mais les remakes de Resident Evil, No More Heroes 3, qui va ravir des gens, qui arrive en 2020, Panzer Dragoon, qui va aussi être remaké. Moi, je dirais Cadence of Hyrule, qui me séduit étrangement. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il sort demain, donc c'est aussi un truc qu'on peut se mettre sous la dent tout de suite, là où la plupart des autres, il faut attendre un moment. Et puis Link's Awakening, qui arrive le 20 septembre, comme j'en plaisante souvent.
Et d'ailleurs, c'était une bonne surprise aussi de cette conférence, l'espèce de, bon, ça a l'air assez basique, mais le mini mode Zelda Maker dans Link's Awakening, j'ai très apprécié ça.
Oui, à voir les détails de tout ça. C'est le 20 septembre, mon anniversaire, c'est le 21. Donc, vous ne pourrez pas forcément me l'offrir, mais vous pourriez, par exemple, me rembourser de mon achat. C'est une suggestion comme ça.
Tu nous donneras ton PayPal.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, ouais, mais bon, sinon, Zelda Breath of the Wild 2, il n'y avait pas grand-chose, mais ça m'a forcément plu. Bon, écoutez, c'était la dernière conférence. On va donc pouvoir conclure sur cette E3 2019. Je vais vous donner à chacun une petite minute pour nous dire ce que vous avez pensé dans l'ensemble de tout ça, en gardant bien sûr à l'esprit que la vraie conférence ne commence qu'aujourd'hui. Donc, il y aura des avis supplémentaires qui vont arriver quand les journalistes vont pouvoir mettre les mains sur certains des jeux. Mais Escarina, ton avis d'ensemble sur cette E3 ?
Un E3 un peu étrange, je pense que l'absence de Sony y est pour beaucoup, donc du coup pas de très grosses annonces fracassantes. Alors il y a eu des surprises, etc., mais on sent qu'on commence à plus être dans le même jeu que les années précédentes. Du coup, j'attends de voir ce qui va se passer du côté de Sony dans les mois qui viennent sur les annonces qu'ils vont faire, et puis je suis aussi curieuse de voir le tournant que va prendre la Gamescom, parce que de plus en plus l'équilibre entre ces deux gros salons là change. Et avec le départ de Sony de l'E3, je suis curieuse de voir si ça va rééquilibrer encore un peu plus du côté de la Gamescom. Donc, d'un point de vue purement gamer, jeu vidéo, en demi-teinte, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent dans le jeu vidéo. On parlait des nouveaux modes de consommation, etc. Il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer, et ça promet plein de choses intéressantes dans les mois qui viennent.
Je me demande si Sony fera pas sa PlayStation Experience en décembre pour présenter plein de trucs, mais à voir. Oscar, je crois que tu dois peut-être partir bientôt. Escar, on est en train de finir, mais tu nous dis si tu dois filer.
Là, si on est sur la fin, ce sera parfait pour
d'accord,
moi.
D'accord, super. Oscar, conclusion sur cette E3.
Ouais, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y avait un gros teasing sur la prochaine génération, et notamment de la part de Microsoft. Puis finalement, ça a pris très peu de place. Et ça a été très peu suivi aussi des éditeurs tiers. C'est-à-dire que si on regarde Donc là, la nouvelle génération Xbox PlayStation, ça va arriver fin 2020. Donc l'équivalent pour la génération d'avant, c'était l'E3 2012, et c'était le moment où Ubisoft avait montré pour la première fois Watch Dogs, qui était c'était un peu la première fois qu'on nous faisait une promesse concrète avec du gameplay de la génération.
La version super bullshit de Watch Dogs qui n'a jamais vu le jour dans cette aussi beau, exactement. C'est ça.
Et oui, c'est exactement ça. Mais tu vois, enfin,
peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs, ouais.
Oui, je pense que c'est ça. Mais c'est assez intéressant que, du coup, personne n'est allé dans ce sens-là et finalement, personne n'a montré de gameplay ou enfin de gameplay de target,
de quoi que ce soit, d'image, de la prochaine génération.
D'un jeu de la prochaine génération, y compris Bethesda qui n'a pas montré son Starfield. Donc finalement, en fait, en fin de compte, on est sur un E3 alors que Ça s'annonçait plutôt être un E3 pas mal porté sur la prochaine génération. On est sur un E3 qui reste vraiment sur la génération actuelle, sur le concret et sur des jeux qui arrivent dans pas si longtemps. Même Cyberpunk, moi j'ai été surpris de voir que sa sortie est pas si lointaine. Et j'ai trouvé ça assez reposant de ce point de vue-là et que finalement c'est un E3 que j'ai trouvé satisfaisant à ce niveau-là. Il n'y avait pas des promesses folles, mais il y avait quand même du concret, même si à mon goût les conférences manquaient un peu de gameplay. Il y a du concret et je trouve que il y a des jeux très intéressants qui se profilent dans les prochains mois et j'ai trouvé c'était pas un cru extraordinaire, mais c'était satisfaisant, quoi.
Aurélie.
Escarina, t'as vraiment très bien résumé ce que je pense aussi. Je reste un peu sur ma faim et je sais pas, le 3 en général, effectivement, c'est pas là non plus pour faire du bullshit, mais c'est là pour faire rêver un petit peu et je trouve que ça nous a pas trop donné de perspective pour la suite. Et puis c'est vrai que PlayStation n'étant pas là, on n'a pas de nouvelles de Last of Us. Je sais pas du tout comment ça se passe au niveau de la fin du dev, mais j'étais très curieuse et puis c'est dommage de ne pas avoir une nouvelle de ce jeu-là. Je suis tout à fait de l'avis d'Escarina. C'est un peu étrange cette année, je trouve.
Ouais. Moi, je suis un petit peu entre vous tous. Je trouve qu'il y avait quand même des choses sympas. Il y avait des choses à se mettre sous la dent. Il n'y a pas eu d'énorme explosion, un truc incroyable. À part peut-être Watch Dogs, dont les promesses seront difficiles à tenir. Mais on est sur une fin de génération qui n'est pas encore... c'est un petit peu The Last of Us qui serait le vrai feu d'artifice, autant graphiquement qu'on l'espère par d'autres aspects. Et donc, on n'est pas tout à fait là-dedans, mais il y avait quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent. Et puis surtout, je crois que l'une des raisons pour laquelle je ne suis pas trop déçu, c'est qu'on garde cette promesse de la transition vers la prochaine génération pour l'année prochaine. Donc il y a encore des perspectives. Ce n'est pas qu'on est laissé complètement à plat en se disant il n'y a plus rien après, quoi. Il y a quand même la perspective de la prochaine génération. Donc c'est une sorte d'amuse-bouche de fin de génération pour la génération d'après qui sera le nouveau plat de résistance, j'ai l'impression. Donc moi je suis quand même, s'il n'y avait pas la promesse de la prochaine génération, je serais un petit peu plus déçu, je crois que ça c'est certain, mais là ça me va en fait. Au final, il y a des choses, il y a beaucoup de jeux, surtout début 2020, comme je le disais, il y a beaucoup de jeux que j'attends avec impatience, donc mais même pour cette année, donc bon, plutôt content. Et puis on a parlé de toutes les transformations de l'industrie longuement en début d'émission, donc je ne vais pas revenir dessus, mais clairement le push du Game Pass en particulier est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, et le streaming également. Bon, écoutez, la fin donc de cet épisode bien nourri, je vais vous proposer, avant de nous quitter, de nous dire chacun où on peut vous retrouver sur Internet. Donc on va commencer, comme on l'a fait pendant tout l'épisode, par Escarina.
Oui, je me sens un peu privilégiée. Donc on peut me retrouver sur KissMyGeek ou bien sur Twitter, @Escarina_, et puis comme tu le disais, sur le podcast SuperGamerside qu'on essaye de faire tous les mois.
Super, merci beaucoup Eska et merci d'avoir été là. Oscar, où te retrouve-t-on sur Internet ?
En ce moment, je suis en train d'écrire là présentement des articles d'analyse sur l'E3 pour Gamekult, donc qui devraient arriver dans les jours qui viennent. Sinon, sur Ludostri, où je publie en ce moment un long dossier sur l'histoire de la Dreamcast. qui va bientôt arriver sur la fin, la fin un peu tragique. Et puis sinon, bah, sur Twitter, @Oscar Le Maire.
Super. Je ne l'ai pas précisé, mais tous les comptes Twitter de chacun d'entre vous seront dans les notes de l'émission. Aurélie, quid de l'endroit où on peut te retrouver sur Internet ?
Alors, sur tous les réseaux sociaux d'Asobo Studio, un petit peu derrière les réseaux sociaux de Plague Tale aussi, même si je chapeaute pas directement ces réseaux sociaux-là, c'est nos partenaires de chez Focus Home. Et puis mon Twitter, Lilou, LI2LH2O, où j'anime la communauté Plague Tale avec mon community manager.
Super, merci à toi et merci à vous tous. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets à l'avenir. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et sur Instagram. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Si vous voulez commenter tout ce qu'on a dit, vous pouvez le faire là-bas. C'est toujours sympa d'avoir des avis différents de ceux qu'on a ici. Donc n'hésitez pas à le faire sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain épisode arrivera dans un petit moment. Il risque d'y avoir, comme les années précédentes, l'épisode des patriotes de la communauté avec leur avis sur, vous les connaissez hein, maintenant, ça fait plusieurs années qu'ils le font, sur l'E3 pour des avis différents. Et puis nous, on se retrouve quelques semaines après un repos bien mérité suite à cette E3. On vous remercie de nous avoir écoutés, on vous fait de grosses bises et à très bientôt. Ciao, ciao.